raconte une histoire à propos de ce qu'on est en train de parler dans ce qu'on est en train de parler actuellement dans la Gemara, du concept de ce qu'on appelle Aknas Kefel. Ça veut dire le fait que je peux vendre non seulement mon objet, mais je peux vendre également le Kefel qui m'appartient éventuellement. Tu te rappelles? C'est-à-dire je vends un objet, par exemple, qui m'a déjà été volé, et donc je vends le Kefel éventuel si on retrouve le voleur. Aou Gavra, vers un homme, Deafkid qui fait Gabé Chavré. Il y avait un homme qui a donné donc à garder, qui fait plusieurs explications. Il y en a qui disent que c'est des boucles d'oreilles, il y en a qui disent que c'est des perles. D'accord? Bon. Donc, il y a un homme qui a donné à garder des. Parce que Rachid, dans deux endroits, ici, il explique que c'est des boucles d'oreilles, dans l'autre, et ailleurs, il explique que c'est margaliotes. Margaliotes, ça veut dire des perles. Donc, il y a un homme qui a donné à garder à son ami des boucles d'oreilles. Et quelques temps plus tard, à Marley, il lui a dit, donc celui que il a donc il a celui le propriétaire est venu voir le gardien et il lui a dit Avli kiffé, rends-moi mes boucles d'oreilles. Amarle, le gardien lui a répondu La yadana echaot vinu. Il a dit je me rappelle plus où je les ai posées. Il n'a pas dit ni qu'ils ont été volés ni qu'ils ont été perdus. Il n'a pas dit ça. Il a dit je ne sais plus, je me rappelle plus où je les ai posées. D'accord? Atal ekame de Rav Nachman. Cet homme est venu chez Rav Nachman. Amarle, Rav Nachman lui a dit, kol le yada napshiutei. Alors, comment on considère le fait de ne pas savoir où on a posé quelque chose? Est-ce qu'on considère que c'est une faute ou est-ce qu'on considère que c'est quelque chose qui est acceptable? Qu'est-ce que tu en penses? Hein?
On dirait que c'est une faute, mais.
Le fait de ne pas se rappeler où on a posé quelque chose.
Ouais.
Est-ce qu'on considère ça comme une faute ou est-ce qu'on considère ça comme quelque chose qui peut arriver?
Les deux.
Là, a priori, ici, c'est possible que c'est un chômeur khinam. Si c'est un chômeur khinam, le seul cas dans lequel il est responsable, c'est s'il a fait pshia. C'est-à-dire s'il a fait une faute. Il a dit, je ne me rappelle plus où je les ai posés. Par exemple, il a cherché, il ne se rappelle plus où je les ai posés. Il dit, je ne les ai pas perdus, ils sont là. D'accord? Mais je ne me rappelle plus où je les ai posés. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, Rav Nachman, Atal Kamed Rav Nachman, donc cet homme-là est venu chez Rav Nachman, à Marley, lui a dit, kol lo yadana pshiotei. Il dit que quand tu ne te rappelles pas où tu as posé l'objet, c'est considéré comme une faute. D'accord? C'est de quoi c'est considéré comme une faute? Ça veut dire c'est considéré comme une faute, donc tu dois rembourser l'objet. Zil Shalim va payer. D'accord? Va payer, il faut que tu payes, tu dois rembourser. Oui? Bon. Lo Shilem, il n'a pas payé. Arman, il l'a pas forcé, il a dit il faut que tu payes. Il n'a pas payé. Alors on dit, Azal Rav Nachman, Akbela Padneminé. Rav Nachman est parti. Et. Excuse-moi, ça me dérange si on met la porte. Azal Rav Nachman est parti. Akbel Apadneminé, il est parti prendre son. Donc Apadne, ça veut dire il est parti prendre son. Comment il traduit Apadne ici?
Son château.
Ouais, château. En hébreu, ça se dit Traklin. C'est pas un château, c'est un. C'est une sorte de hall que les gens avaient à l'époque. Traduit château?
C'est pas exagéré, mais.
Hein?
Ça paraît exagéré.
Oui, non, c'est justement, parce que c'est, non, mais ça, il a pris, c'était, ça valait cher, il avait des boucles d'oreilles apparemment très chères.
Un
D'accord?
château.
Alors, il traduit un château, je sais pas si c'est une bonne traduction château. Parce que, Apadné, c'est un, ce qu'on appelle un traclin. Traclin, c'est comme un, tu sais, traclin, c'est comme un hall d'hôtel, tu sais, les grands halls comme ça, très jolis, très beaux.
Comment on peut prendre un rôle de télé?
Non, pour te donner un exemple de ce que c'est un traclin. Traclin, c'est un petit peu c'est une pièce comme ça, c'est pas un château, non. Il faut trouver un autre mot en français.
C'est l'entrée, mais ça veut rien dire, c'est
Non, c'est
l'entrée.
pas une entrée.
C'est parti
C'était
de.
une pièce qui était là que pour ça. C'était une grande pièce. Tu sais, d'ailleurs, dans le Pirkei Avot, on parle de Traklin. Quand on dit que le monde, ce monde-ci est un préambule avant de rentrer.
Ah,
Voilà, tu vois.
ouais. Un prosor.
Prose d'or, ouais. Prose d'or avant le Traklin.
Alors,
C'est un prose d'or,
un
donc un
hall.
préambule avant le. Oui, mais non.
Un vestibule en
Mais
français.
nous, c'est le vestibule avant le traclin, avant d'arriver à l'intérieur de cette grande salle. Je sais pas si c'est château, à mon avis, c'est pas une bonne traduction, mais bon.
Mais même, ce vestibule fait partie de...
Quoi qu'il en soit, c'est un endroit qui vaut très cher.
Bon.
D'accord? Donc, Rav Nachman est parti. Akbe l'a pas de néminé. Il a pris, d'accord? Il a pris donc son apadna. Ça veut son apadna, ça veut dire son. Donc on a expliqué son. Ah, on peut. Bon, on va traduire son château. Rabbeinu Hananel, il traduit que c'est pas le château. Rabbeinu Hananel, il dit c'est la cour. Je sais pas si on met ça dans les notes, bon. En tout cas, il lui a pris quelque chose qui valait cher. Qui valait très cher.
Y a pas de note là-dessus.
Alors, les sofs, au bout du compte, Ishtakar qui fait Veiko. Juste après, on a retrouvé les boucles d'oreilles. Apparemment, ça devait être des boucles d'oreilles en diamant, des boucles d'oreilles très chères. Et ce qui se passe, c'est qu'entre-temps, leur valeur a augmenté. D'accord? C'est quoi le problème qu'on a ici, avant de voir la Rav Nachman?
À qui est-ce qui attend? C'est quoi le problème? Donc il a saisi le château pour rembourser les boucles d'oreilles.
Voilà. Enfin, c'est pas le château, enfin, je...
Enfin
Bon.
bon.
Quelque chose qui valait, là, cette valeur-là, quoi.
D'accord, donc maintenant, à qui sont les boucles d'oreilles?
Mais le problème, c'est que les boucles d'oreilles ont augmenté entre-temps.
Ouais, ben ça encore, ça genre. T'es pas obligé de faire rentrer en ligne de compte,
Ah
ça.
si.
C'est remboursé par rapport à la valeur où ça
Alors,
était.
très bien. Maintenant, le propriétaire des boucles d'oreilles dit, moi, je reviens une boucle d'oreille.
Non mais il a reçu
Ah
son
non?
kefel.
Oui, non, lui, il a dit, moi, il a dit qu'il les retrouvait pas. Maintenant, il les a retrouvés,
Il a pris le
je
kefel puisqu'il a reçu des
Quoi?
photos.
Il n'y a pas eu de vol, mis en. Il n'y a pas eu de vol du tout. Il n'y a pas eu de vol, c'était une chia. Je rappelle. Il savait plus où il les a posés. Il lui a dit, il faut payer. Il voulait pas payer. Rav Nachman a envoyé ses hommes et ils ont pris le château.
Clairement, quoi,
D'accord?
il était
Bedine, il avait un
Bedine.
Bedine.
Bon, d'accord, alors tu veux ces boucles d'oreilles, je suis capé, dis donc.
Alors qu'est-ce qu'on fait?
Moi je dirais que c'est
Qui garde les boucles d'oreilles et qui garde le traclin?
c'est celui qui a été obligé de vendre son château, c'est lui qui garde les boucles d'oreilles.
Il n'a pas vendu son château.
On l'a saisi.
On lui a saisi.
Bon, c'est la même chose.
Ah non.
Saisi, ça veut dire que ça saisit quoi. On l'a vendu.
On lui a saisi. C'est pas dit que l'autre ait commencé à s'en servir. On lui a saisi.
Est-ce que ça veut dire saisi? Est-ce que ça veut dire qu'on l'a vendu ou est-ce que ça veut dire qu'on a pris une hypothèque dessus?
Ah. Bonne question, je sais pas. On l'a pas dit. C'est une question que tu
Si on
dois te
a
poser.
pris une hypothèque, ça revient au propriétaire du départ. Et si on a vendu, je dirais que ça revient.
Qu'est-ce que la Gemara a dit?
La Guémara, qu'est-ce qu'elle dit? Le château doit retourner à son propriétaire.
Non, 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 non. Avant ça, qu'est-ce que Rav Nachman avait fait? Et Rav Nachman nous dit qu'il a pris le château. Maintenant, on ne sait pas ce qui s'est passé avec ce château.
Voilà.
D'accord?
Ouais.
Bon. Alors, Amar, donc ils sont venus voir Rav Nachman pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Amar Rav Nachman. Alors, n'oublie pas qu'il faut pas se rappeler que l'autre ne voulait pas payer. Hein, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte ici.
Bon, oui, c'est vrai.
Hein? L'autre ne voulait pas payer, donc on l'a forcé. Et l'autre non plus n'a pas vraiment perdu l'objet, il ne le retrouve plus. Il y a plusieurs paramètres, tu vois, qui sont compliqués ici. D'accord? Alors, Amar Rav Nachman, Rav Nachman a dit, le din est que Adre qui fait les marailles ou Vadra Padna les maras. Les boucles d'oreilles reviennent à leur propriétaire. Et le traclin revient lui aussi à son propriétaire. Bizarre. Pourtant il a payé, c'est quoi cette histoire? Et si elles avaient baissé de valeur, qu'est-ce que t'aurais fait? Hein?
Oui.
C'est quoi cette histoire? Il a payé, c'est fini.
C'est ce que je pense.
Alors on va voir le commentaire de Rava. Rava qui est l'élève de Rav Nachman. Amar Rava, Rava a dit, Ava yativna kamed Rav Nachman. J'étais assis devant Rav Nachman lorsqu'il a fait ce dîne-là. Il va peut-être nous aider à comprendre. Là, c'est l'élève qui est devenu lui-même Rav qui parle maintenant.
Ouais.
Il dit, j'étais là-bas. Ou Farkin, ou Firkin, à Mafkidava. Et le pérec qu'on était en train d'étudier, c'était à Mafkid. Donc notre pérec, c'est à Mafkid. On parlait de ça. Ve'amrele, et j'ai posé la question à Rav Nachman sur son psak, sur le psak Galacha qu'il venait de faire. Je lui ai dit, mais voilà, a priori, on enseignait dans la Mishnah. Shilem velo ratzalishava, qu'est-ce qu'on enseignait dans notre Mishnah? On enseignait que s'il a payé et il ne voulait pas jurer, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a dit? À qui appartient le pique, à qui appartient le dépôt?
C'est
Bah,
ça.
ça appartient à celui qui a payé.
Ah oui.
Donc ça veut dire que qu'est-ce qu'on dit dans notre Mishnah? Que le fait de payer correspond à une prise de possession de l'objet. Donc j'ai posé la question à Rav Nachman, et qu'est-ce qu'on avait expliqué dans la Mishnah? On avait expliqué que même si entre-temps il y a l'objet a augmenté de valeur ou il a baissé de valeur, ben ça change pas, l'objet appartient toujours à celui qui a payé, et c'est logique. Puisque le fait de payer, c'est pas uniquement un dédommagement, c'est une prise de possession de l'objet, ce qu'on a expliqué.
Sauf que là, il a pas voulu jurer
D'accord?
et il a pas voulu payer non plus.
Très bien. Mais c'est le même principe, il a pas voulu payer, mais on a
Il
payé
a
à sa
payé
place.
quand même.
D'accord?
Bon.
On a pris l'argent.
D'accord.
Donc Rava, il dit, j'ai posé la question à Rav Nachman. Velo Adarli, Rav Nachman ne m'a pas répondu. Chol. Et il dit, Véchapi Rava de Lo Adarli. Il a bien fait de ne pas me répondre. Ouais, ben, c'est quoi si temps? Il nous raconte les coulisses, là. Il m'a pas répondu et il a bien fait de ne pas me répondre. Pourquoi il a bien fait de ne pas me répondre? Maïtama, pourquoi?
Mon argument n'était pas bon.
Parce qu'en réalité, mon argument n'était pas bon. Rav Nachman, s'il n'avait pas répondu, c'est-à-dire que mon argument ne valait même pas une réponse.
C'est une question inutile.
Pourquoi? Datam lo atreche le vedina, acha atreche le vedina. Parce que dans le din de la Mishnah, pourquoi la personne est prête à donner l'objet? Pourquoi moi, le propriétaire de l'objet, est prêt à donner son objet à celui qui vient de payer? C'est parce que l'autre est le Bedina, parce que c'est une histoire qui ne s'est pas passée devant le Bedin, c'est une histoire qui s'est passée entre nous, à l'amiable. Donc puisqu'elle s'est passée à l'amiable, dans ce cas-là, je dis bon, dans ma tête, dans notre tête, qu'est-ce qui se passe? Je dis bon, on fait l'échange, il me donne son terrain, je lui donne les boucles d'oreilles. On l'a fait à l'amiable. Mais ah, ici, à Trach et les Bedina, ici, étant donné qu'il y a eu une galère, ça s'est mal passé. Il a amené au Bedin, il a fatigué, il a amené au Bedin. Donc dans ce cas-là, le propriétaire des boucles d'oreilles n'est pas prêt à donner les boucles d'oreilles. Il va prendre le terrain seulement en contrepartie des boucles d'oreilles tant qu'on ne retrouve pas les boucles d'oreilles. Vous d'accord? Ça c'est la réponse de Rava. Comment Rava a compris?
C'est bien un chômeur khinam là. C'est bien un chômeur khinam là.
Alors, pardon?
C'est bien un chômeur
Bien sûr,
khinam
chômeur khinam, ouais. Donc apparemment, Rava, il a posé une question, on lui a pas répondu, et après, par la suite, il a compris que sa question ne valait même pas d'être posée. Alors, il devait poser la question, il dit, attends, comment on peut dire que Rava, il pose une question qui ne valait même pas d'être posée? C'est pas possible, Rava, il a pas pensé à ça? Hein?
Oh, je sais pas quel âge il avait, Rava, à ce moment-là, parce que c'était un petit genou.
Ah non. Si Rava, il nous le raconte, on sait très bien ce qu'on a expliqué plusieurs fois, que dans la Gemara, même le Salkalata, même ce qu'on pense, il doit avoir une certaine logique. Et là, a priori, quand on voit la réponse, on comprend pas la logique de la question. Quelle logique de la question? C'est évident, la réponse est évidente, c'est vrai. Parce que dans le cas de la Mishnah, pourquoi il lui donne? Ben parce que ça s'est passé à l'amiable. Alors que quand ça passe par un tribunal, c'est autre chose. Je veux dire, tu demandes n'importe qui. Il te dira que c'est vrai. Quand on fait les choses à l'amiable, bon ben dans ce cas-là, il y a certains d'accord, qu'il y a certains accords qui se font. Et quand on fait pas les choses à l'amiable au tribunal, ben dans ce cas-là, on applique la loi. C'est pas la même chose. Comment Rava n'a pas pensé à ça?
Et qu'est-ce qu'il aurait dit si l'objet n'avait pas été là?
D'accord? Oui, bon, mais bon, ça, on ne pose même pas la question, mais je veux dire, qu'est-ce qu'a pensé Rava? Comment Rava n'a pas pensé à cette réponse-là? Alors, le Ritva explique la chose suivante. Le Ritva, il dit que Rava, dans Maseret Baba Kama, il a un autre avis, dans lequel il dit que si une personne a payé après avoir juré, écoute bien ce que j'ai en train de dire, c'est-à-dire qu'il a déjà juré. D'accord? Imagine-toi, j'ai perdu les boucles d'oreilles, c'est de ma faute, je jure. Et après avoir juré, je paye.
T'as juré la première pour une
J'ai
pour
juré que je les ai pas, que c'est pas chez moi, donc je te dois rien.
Ouais, non, ouais.
Et après je viens, je te paye. Bon, je te viens, je suis fou, mais bon, je te paye. J'ai envie de payer, j'ai pas envie d'histoire, moi je te dis, voilà, je t'ai juré que c'est pas pour moi, comme ça je suis tout content avec Dieu. Maintenant je te paye à toi, je
C'est
vais te.
prévu ça?
Hein?
C'est prévu?
Non, pas prévu, mais il peut, s'il veut payer.
C'est pas sûr.
Il dit, je veux payer.
Mais tu t'es juré, t'as pas payé.
Très bien, j'ai pas besoin, mais j'ai envie de payer.
Je sais pas, tu peux dire.
Alors, Rava dans le traité Baba Kama, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que s'il a juré après avoir payé, dans ce cas-là aussi, on considère que toi, Yaakov, tu me donnes le kefel. Tu me donnes le kefel parce que tu dis, ah, c'est beau, il m'a payé, je suis content. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cas que la marque qu'elle a dans la Gemara, hein, c'est la Gemara à la base pour la question, on dit, est-ce que le fait, imagine-toi que l'objet t'appartenait à toi. D'accord? Et que moi, j'étais. Donc moi, je garde l'objet. Apparemment, je l'ai perdu. Et que d'abord, je vais jurer au Bedin. Donc si tu vas jurer au Bedin, si je vais jurer au Bedin, je vais pas être seul au Bedin. Il y a forcément toi qui vas venir avec moi. Donc c'est une galère pour toi. Et après, je te paye. Rava, il se pose la question là-bas. Il dit, est-ce que dans ce cas-là, toi, tu vas me donner le kefel? Il y a deux avis. Il y a un avis qui dit non. Il dit, étant donné que tu m'as galéré au tribunal, dans ce cas-là, que je t'ai galéré au tribunal, je t'ai amené au tribunal, dans ce cas, tu dis, écoute, moi, je ne te donne pas le kefel. Mais Rava, là-bas, il pense que même si je t'ai fatigué au tribunal, tu me suis?
Oui.
Le fait qu'après je t'ai payé, tu dis bon, ça va te calmer, tu vas dire ok, je lui donne tout, l'objet plus le kefel. Le Ritva explique, il dit que c'est ce qui s'est passé dans la tête de Rava à ce moment-là. Rava a dit, puisque dans le cas que je viens de citer, on a vu que même s'il a galéré, même s'il a traîné la personne en justice, mais puisqu'après il a payé, tout s'est arrangé. Donc Rava a pensé que c'est la même chose ici, dans le cas qu'il a amené, dans le cas de boucle d'oreille. Que même si ça s'est mal passé, il voulait pas payer, etc. Mais étant donné qu'au bout du compte, il a récupéré son château, donc Rava s'est dit peut-être que c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il a compris Rava dans la réponse?
Que c'est pas la même chose.
Que c'est pas la même chose. Que c'est pas du tout la même chose. Pourquoi c'est pas du tout la même chose? Parce que dans le cas de la baloka que je viens de te citer, c'est un cas dans lequel moi je devais pas te payer une fois que j'ai juré.
Ouais.
Donc c'est pour ça que le fait que j'ai fait un acte et que je t'ai payé, là ça t'a calmé parce que j'avais pas besoin de le faire. Mais alors que là, lorsque tu as récupéré mon château à la place de tes boucles d'oreilles. D'accord? C'est pas une faveur que tu m'as fait, c'est pas une faveur que je t'ai fait, c'est normal. Donc tout s'est passé dans les cadres de la justice, il n'y a rien eu à l'amiable ici, tu comprends? Donc puisqu'il y a eu zéro amiable, il n'y a rien eu à l'amiable, c'est pour ça qu'en vérité, Rava a dit, je comprends pourquoi Rava n'a pas répondu. D'accord? T'as compris le...
Ouais.
T'as pas compris?
Ça me paraît pas clair, mais. Parce que
Chien.
c'était pas à la mienne, mais bon.
Quoi?
Parce que ça s'est pas fait à la mienne. Ça s'est pas fait
Non mais
normalement.
la question que le Ritba se pose, il dit qu'est-ce que Rava avait dans la tête?
Pourquoi tu vas payer alors si jamais tu fais pas
Quoi?
le kefel?
Parce qu'il a envie de payer, il a envie d'être clean.
Ouais, c'est pas clair ça non plus.
Pourquoi c'est pas clair? Écoute, c'est un ami à lui, il dit, écoute, j'ai pas d'histoire, hein, je te paye et c'est bon. Allez. On n'en parle plus. Il faut pas oublier, c'est peut-être ton voisin. Fais pas d'histoire et dire oui, il a dit, mais il a juré, mais peut-être c'est un menteur. Tu payes, tiens, prends ton argent et laisse-moi tranquille. Gentiment, tu vois, amicalement. Donc là, hein, Rava, étant donné que lui pense que dans ce cas-là, même si au début, même si j'étais traîné en justice pour jurer, pour que je jure, c'est moi qui ai juré, mais j'étais traîné en justice quand même. Donc,
Il
bien que...
n'a pas juré là.
Si, il a juré. Non mais, c'est quoi le sale calatar de Rava? Qu'est-ce que Rava a pensé? Étant donné que dans le cas qu'on a dit dans la Gemara Baba Kama, qu'est-ce qu'on a dit? Le fait que la personne, qu'on a dit que bien que la personne, bien que je l'ai traîné en justice, mais le fait qu'après je l'ai payé, ça l'a calmé. Donc il s'est dit, tu aussi, même s'il y a eu, ça s'est mal passé, mais puisqu'au bout du compte, il a récupéré son argent, alors c'est bon. Et là, c'est la réponse de Rava, la grande réponse qui dit non. Il dit, dans les deux cas qu'on a cités, dans le cas de notre Mishnah, et dans le cas que je viens de citer, où il a payé après avoir juré, c'est des cas dans lesquels il y a un aspect amiable, et un aspect amical. D'accord? Ça veut dire, dans le cas de la Mishnah, c'est évident, il a payé directement. Et même si tu dis qu'il a juré, donc il a traîné en justice, mais qu'après il a payé, alors qu'il ne devait pas le faire, il y a un aspect amical qu'il ne devait pas faire. Après, dans ce cas-là, on va dire que bon, ça a calmé le propriétaire, il dit bon, dans ce cas-là, je lui donne tout, il prend les droits et c'est tout. Mais dans le cas de Rav Nachman, le cas qui s'est passé ici, il n'y a rien eu d'amical. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu m'as donné à garder
Un objet.
un objet. Je ne sais pas où il est l'objet. Je ne veux pas te payer, j'ai pas envie de pêcher, je te paye pas. Je le retrouverai, quand je le retrouverai, je le rendrai. Je vais pas te payer, je vais le retrouver. Maintenant, ça traîne, ça traîne, ça traîne, je le retrouve pas. Tu comprends, c'est un cas de la vie de tous les jours, ça. Je vais chez Rav Nachman, on me dit, ben, écoute, tu le retrouves pas, il faut payer. Je dis non, je paye pas. Je vais le retrouver. C'est ce qu'il dit dans sa tête.
Ouais, je vois.
D'accord? On vient, on me prend mon château, enfin, on me prend ma voiture, on va dire. D'accord, en contrepartie de ça. Le fait qu'on a pris la voiture, est-ce qu'il y a un aspect amical dans ça? Pas du tout, c'est normal. Donc à aucun moment tu étais content de moi. À aucun moment tu étais content, tu t'es dit, ah, il s'est bien comporté, dans ce cas-là, je lui donne tous les droits sur l'objet.
Bon.
Donc ça veut dire que Rav Nachman nous apprend que dans ce cas-là, tu n'as pas acheté les droits de l'objet.
Donc tu n'as pas acheté le kefel.
Non, tu n'as pas acheté ni l'objet, ni le kefel, rien du tout. Tu as seulement pris le terrain.
Mais si en même temps il peut pas jurer que c'est pas en sa possession puisque
Quoi?
il sait pas où il l'a mis.
Oui, très bien.
C'est ambigu comme situation.
Bien sûr.
Bon les bouts d'oreilles c'est une chose, la vache c'est pas pareil, la vache tu vois bien qu'elle est pas dans ta possession.
Oui.
Donc pour moi jurer ça,
Oui, il peut pas jurer.
là, il peut pas jurer.
En fait, qu'on va le faire jurer, peut-être qu'on va le faire jurer qu'il sait pas où il est.
Il sait pas où il est.
Ah, ça, on peut le faire jurer, ça aussi.
Ça il a pas voulu jurer.
C'est possible qu'il ait juré ça.
Alors il a pas payé alors.
Quoi?
Il a pas payé.
Si? Il doit juste jurer qu'il sait pas où il est, mais ça change pas. C'est une faute quand même, le fait de pas savoir où c'est.
Peut-être qu'on lui a volé.
Peut-être, peut-être peut-être non. Rav Nachman a dit un principe. Le fait de ne pas savoir où un objet se trouve, c'est considéré une faute.
Voilà, c'est considéré.
C'est-à-dire, tu vois, t'as un objet chez toi à la maison, tu dis, je sais plus où je l'ai posé. C'est pas de la faute de l'objet, c'est pas de la faute du hasard, c'est de ta faute, c'est parce que toi tu l'as pas posé au bon endroit. C'est un principe de base. C'est-à-dire que être pagailleux, c'est pas de la faute ni de l'objet, ni de toi, ni de personne, c'est de ma faute, c'est moi. C'est considéré une pchia, c'est considéré une faute. Tu fais ce que tu veux avec tes objets, mais avec les objets des autres, non.
Non.
On est d'accord?
Ouais.
C'est intéressant dans cette histoire, hein, parce qu'on voit comment, Rava a dit, j'ai posé la question à Rav Nachman, il m'a pas répondu. Et donc apparemment, entre les lignes, on voit une certaine frustration du fait qu'il n'a pas répondu. Et c'est seulement des années plus tard qu'il dit, il a bien fait de ne pas me répondre. C'est-à-dire seulement plus tard qu'il a réalisé que son maître avait bien fait de pas. Mais apparemment, sur le moment, il devait être frustré. Je dis, oui, mon prêtre ne me répond pas, j'ai posé une bonne question. Tu vois ce que je veux dire? C'est intéressant quand même comme réponse de Rav Nachman. Il a même pas calculé, quoi. Hein, qu'est-ce que tu aurais fait à la place de Rava?
J'ai eu la même histoire avec Shalom Levy, là, que tu connais.
Oui.
Quand il a commencé à étudier avec le rave. Enfin, oui, ça fait celui qui fait le. Zafayomi, là. Rosenberg.
Rosenberg.
Et un jour, il a eu un cours, il a eu un cours de Gemara, etc. Et puis, il a posé une question. Mais tu sais, il y avait peut-être 10 élèves, tu as posé une question, tout en entendu. Et Rosenberg, il a pas répondu. Tu vois, ils ont continué. Et à la fin du cours, au bout de 3 heures, il a dit, Monsieur Levy, vous avez encore une question? Tu vois, il m'a dit, ça m'a refroidi, il a plus posé de questions pendant un an, il a plus posé de questions. Bien sûr, ça l'a frustré.
Et après, qu'est-ce qu'il a compris?
Ouais, il a compris que la question, elle valait rien, quoi. C'est pas une question, c'est ce qu'il m'a dit.
Dur.
Ouais. Ça l'a marqué, quoi, je veux dire, ça
Ah bien
l'a.
ça marche. Ok, mais Mrava.
Ça a juste marqué. Bon. Alors, attends, il retrouve les boucles d'oreilles. Il retrouve les boucles d'oreilles, donc il va le rendre au propriétaire, et lui, il va le rendre son château?
Oui,
Oui, hein.
bien sûr.
Bon, ok. Bon.
Alors maintenant, la Gemara va essayer de décortiquer encore plus le cas de cette histoire qui s'est passée. Les Memra, est-ce qu'on va dire, donc quand Rav Nachman a dit qu'il faut rendre le château à son propriétaire, d'accord, et les boucles d'oreilles à leur propriétaire. Donc ça veut dire qu'on rend le château à son propriétaire, on est d'accord? Les Memra, est-ce qu'on va dire que de cette histoire, on peut apprendre des savs à Rav Nachman, que Rav Nachman pense des Shuma, Shuma Hadar. Alors c'est quoi Shuma? Shuma c'est une évaluation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un terrain qu'on a évalué sa valeur. On a dit bon, on a évalué sa valeur, par exemple, il vaut 50 000 euros. D'accord? Et on a pas hypothéqué, mais on a saisi ce terrain d'une personne qui devait de l'argent à une autre personne pour rembourser la dette. Alors, est-ce qu'on va dire que Rav Nachman y pense que Shuma, donc Shuma en hébreu, ça veut dire une évaluation. En araméen, pardon. Une évaluation. Que l'évaluation, Hadar, revient. Ça veut dire quoi, revient? Ça veut dire que, si la personne, alors maintenant écoute bien le cas. Tu me suis?
Ouais.
Regarde. Imagine-toi que les boucles d'oreilles valaient 50 000 euros. C'est possible?
Ouais.
Est-ce que c'est possible?
Je confirme.
Boucles d'oreilles, signées, etc. 50 000 euros.
C'est le diamant, je confirme.
Encore du diamant, 50 000 euros. Je les perds. D'accord? Elles sont perdues. T'as pas envie de me payer, mais on te force à payer, etc. On prend ton terrain. On évalue, t'as plusieurs terrains. T'as des terrains pour tous les prix. On évalue un de tes terrains, on dit celui-là, il vaut 50 000 euros. Et tu dis, non, il vaut pas 50 000 euros. Il vaut plus. Il dit, écoutez, monsieur, nous, c'est le tribunal, on a évalué, il vaut 50 000 euros. Donc on te prend ton terrain. Tu reviens plus tard. Et tu dis, voilà, j'ai trouvé 50 000 euros en cash, rendez-moi mon terrain. Est-ce que tu as le droit de reprendre ton terrain?
Oui.
Alors, jusqu'à présent, on pensait que non. On pensait qu'en fait, c'était une transaction ici. Que tu as pris mon terrain, que tu prends mon terrain, à
Non,
la
mais
place des
le
boucles
terrain,
d'oreilles.
c'est pour 50 000.
D'accord. Mais jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on pensait? On pensait que le terrain, c'était une transaction.
Non, mais c'est bon, on n'a rien pensé. Il a pris son château.
Attends,
À la
non,
fin de
non, non,
l'enfant.
attends, attends, une seconde. Jusqu'à présent, avant Rav Nachman, qu'est-ce qu'on pensait? Qu'est-ce qu'on a toujours compris? On a toujours compris qu'il y a une prise de possession ici. Et tu prends le château, il vient à la place des boucles d'oreilles. Donc c'est fini, donc ça veut dire qu'on a fait une transaction. C'est-à-dire que maintenant le château t'appartient et les boucles d'oreilles m'appartiennent. D'accord? Si je les retrouve, elles sont à moi. C'est ce qu'on a toujours pensé. Maintenant, Rav Nachman est venu, il nous a appris quelque chose de nouveau. Il nous a appris quelque chose de nouveau, il nous a appris que, apparemment, il y a une situation dans laquelle Le château peut revenir à son propriétaire, et les boucles d'oreilles peuvent revenir à leur propriétaire. Donc ça veut dire qu'en vérité, il n'y a pas réellement de prise de possession ici. C'est une sorte d'hypothèque.
Hypothèque.
Donc si tu dis que c'est une hypothèque, d'accord? Dans ce cas-là, est-ce que ça voudrait dire que Rav Nachman pense que si nous on t'a hypothéqué un terrain que nous on pense qu'il vaut 50 000 euros, et que toi t'es pas content, tu dis mais non, il vaut 100 000 euros mon terrain, et que tu nous trouves 50 000 euros en cash, tu nous le payes, est-ce que tu peux en prendre ton terrain?
Oui.
A priori, oui. Jusqu'à présent, on pensait que non. Jusqu'à présent, on pensait qu'il y avait une transaction qu'on a échangée. Mais Rav Nachman, il est venu te dire qu'en vérité, c'est pas toujours que c'est un échange. Un échange seulement s'il y a un aspect amical. Mais s'il n'y a pas d'aspect amical, il n'y a pas d'échange. C'est une sorte d'hypothèque. Une sorte d'hypothèque qui peut rester à vie, en vérité. On est d'accord?
Oui.
C'est pas seulement une hypothèque, parce qu'une hypothèque, on n'a pas le droit de s'en servir. Là, t'as le droit de t'en servir. C'est une hypothèque un peu
Mais
bizarre.
c'est toi qui dis que c'est une hypothèque, parce que moi, ce que je comprends, c'est pas ça. Je crois qu'il avait pas 50 000 euros en cash.
Oui.
Donc on est rendu sur la pousse au château.
Très bien. Mais le fait qu'après on va lui rendre son château, si on
Et
trouve le bouc d'oreille.
ça pose un problème.
Donc ça veut dire que Rav Nachman pense que quand il n'y a pas d'aspect amical, ce qu'on a expliqué, quand c'est pas l'amiable, dans ce cas-là, il n'y a pas d'échange entre nous.
Non, c'est une hypothèque.
C'est pas vraiment une hypothèque. Parce que dans une hypothèque, j'ai pas le droit de me servir de l'objet.
Et qui te dit qu'il se sert du terrain?
Ah, c'est sûr qu'il s'en sert. Parce que si je retrouve pas le bouc d'oreille, tu gardes le terrain à vie. Toi, tes enfants, tes petits-enfants.
Oui, mais d'accord, mais les boucles d'oreilles, je sais pas, c'est déséquilibré. Le terrain, je peux m'en servir, me ramène des
Change
œufs.
pas, on parle de valeur. Nous, on a évalué, les boucles d'oreilles valaient 50 000, c'est certifié. On a évalué
D'accord,
avec un
si tu
expert.
veux creuser, alors qu'est-ce qui vaut 50 000?
D'accord?
C'est le terrain lui-même ou c'est le terrain plus les revenus du terrain?
Non, le terrain. Un terrain, pas en valeur de
Mais alors
marché.
ça marche pas.
Attends, excuse-moi, ça rentre pas dans ça maintenant. On parle de valeur de
Mais si.
marché. Non? Valeur de marché, combien ça vaut? 50 000 euros? Alors je te prends 50 000 euros.
Non, mais ils ramènent de l'argent tous
Mais ça
les
change pas
Les
ça.
boucles d'oreilles, ils ramènent rien.
Ça change rien. C'est pas mes affaires. On parle de la valeur de
Non, tu en
marché.
es plus de 50 000 alors.
Mais nous on parle de la valeur de marché au moment où on échange.
Mais
Peu importe
tu changes un terrain.
je répète. Peu importe ce que tu fais du terrain. C'est pas nos affaires, on parle de valeur de marché. Alors, peu importe si avec une voiture tu peux faire 500 km, avec un âne tu peux faire 10 km. C'est pas nos affaires, ça. J'en ai rien à faire. Moi je vois la valeur de marché. Combien ça vaut? T'as perdu 50 000, tu prends 50 000. Et toi avec les 50 000 que tu vas ramasser, bah, tu vas racheter un autre terrain. C'est pas mes affaires, tu comprends, on réfléchit pas comme ça. C'est ça le concept de la saisie. Le concept de la saisie, c'est que si genre oui, mais écoutez, moi j'ai une maison, dans ma maison je travaille. Hein? Donc quand vous m'enlevez ma maison, vous m'enlevez aussi mon lieu de travail.
La saisie,
Attends.
tu revends l'objet,
Voilà.
donc tu fais un transfert de
Oui, je dis,
propriété.
écoutez monsieur, vous dites ma maison vaut 50 000 euros. Mais ma maison vaut beaucoup plus que 50 000 euros, parce que dans ma maison je travaille, dans ma maison je dors, dans ma maison j'ai fait des investissements, j'ai fait des travaux, j'ai fait des choses, etc. Pour moi, elle vaut beaucoup plus que 50 000 euros. J'ai mis 100 000 euros de travaux ici. On dit, monsieur, on n'en a rien à faire.
Oui, 100 mètres carrés.
D'accord? 100 mètres carrés, valeur de marché,
Oui,
50 000.
mais c'est vendu.
D'accord? Voilà. C'est la
Alors que
même
là,
chose.
non, non.
Si! Alors, jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on pensait? Jusqu'à présent, on pensait qu'il y a une transaction entre nous deux.
Voilà.
Et là, Rav Nachman vient nous apprendre que non. En vérité, que quand il n'y a pas d'aspect amical, il n'y a pas de transaction.
Pas de transaction.
Ça veut dire qu'il n'y a pas de transaction, ça veut dire que ça peut se retourner par la suite.
Voilà.
Donc, si ça peut se retourner par la suite, ça peut se retourner pour qui? Là, pour l'instant, dans le cas de Rav Nachman, ça s'est retourné pour toi, quand on a retrouvé tes boucles d'oreilles. Donc, ça s'est retourné en ta faveur. Mais est-ce que ça peut se retourner en ma faveur aussi? Ça veut dire que si tu me prends mon terrain, mais moi je pense qu'il vaut plus que ça, parce que j'ai fait des investissements, tu me prends mon terrain, je trouve 50 000 euros, et je dis, bon, tiens, je te donne 50 000 euros, tu me rends mon terrain. Est-ce que je peux renverser la situation aussi à ma faveur? A priori, oui.
Oui.
Il n'y a pas de raison. Si tu dis que la transaction n'est pas bonne à 100%, ben dans ce cas-là, si elle n'est pas bonne à 100% pour toi, puisque tu peux récupérer tes boucles d'oreilles par la suite, ben elle n'est pas bonne pour moi aussi. Que moi aussi, si je trouve de l'argent en cash, je peux récupérer mon terrain et mes investissements. On est d'accord?
Oui.
A priori. Alors, pourquoi la Gemara pose la question? Parce que c'est une grande marloquette, ça. Est-ce que Shuma Hadar ou Shuma Lo Hadar? Est-ce qu'une évaluation peut revenir ou est-ce qu'une évaluation ne peut pas revenir? En d'autres termes, est-ce que un terrain qu'on a évalué peut revenir, c'est-à-dire on peut revenir en arrière, reprendre le terrain et donner l'argent qu'on pensait que le terrain valait, ou on peut pas? A priori de Rav Nachman, qu'est-ce qu'on pense? On pense que Rav Nachman,
Pour récupérer.
selon Rav Nachman, Shuma Hadar. Bon, en quoi ça nous dérange? Ça nous dérange pas, mais comme c'est une marloquette, on aimerait savoir le point de vue de Rav Nachman. Est-ce qu'on va dire que Rav Nachman y pense que Shuma Hadar? De quoi Shuma Hadar? C'est-à-dire que l'évaluation revient. Oui? Est-ce qu'on va dire? A priori, oui.
Oui, d'après lui,
Très
oui.
bien.
Oui, puisqu'il dit. Mais
Oui.
maintenant, tu peux poser la question aussi. Et si les bijoux ils prennent de la valeur par rapport au terrain, tu peux poser la question aussi, les bijoux ils perdent de la valeur. Et si tu peux poser la question, est-ce que le terrain il va prendre de la valeur? Et
Oui.
à ce moment-là, quelle est la position
Oui, tu as
de.
raison. C'est la même question.
C'est quelle
Est-ce qu'on va
différence?
dire que c'est la même question? Parce que toi, par exemple, tu peux te rendre compte que ton terrain, moi, par exemple, je peux me rendre compte que mon terrain prend de la valeur. Et je dis, attends, m'a pris ce terrain pour 50 000 euros. Moi, je pense qu'il vaut 100 000. En plus, maintenant, il est monté à 200 000.
Peut-être qu'il manque à
D'accord?
100 000.
Alors, je l'écoute. Comment je te devais? 50 000? Tu prends 50 000, tu prends mon terrain. Puisque, étant donné que, selon Rav Nachman, on a compris que la transaction n'est pas absolue. On est d'accord? Et qu'on peut revenir en arrière. Dans le cas de Rav Nachman, on est revenu en arrière qu'en ta faveur. Quand on a retrouvé tes boucles d'oreilles qui valaient plus cher. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on peut revenir en arrière pour ma faveur? Je te devais 50 000, je te rends 50 000. D'accord? Parce qu'il ne faut pas oublier que dans un terrain, c'est pour ça que je t'ai donné l'exemple d'une saisie, parce que dans un terrain, on a beaucoup d'investissements. Mais ces investissements n'ont pas de valeur de marché. Enfin, bien sûr qu'elles ont une petite valeur de marché. Mais par exemple, tu vois ce que je veux dire? Quand on fait une saisie d'un appartement, on ne te dit pas, monsieur, combien vous avez mis en travaux dedans? On fait une estimation de tel que ça vaut maintenant. On dit, bon, bien sûr que si tu es dans un état vétuste, ça vaut moins, mais ça n'a rien à voir avec ce que tu investis. On est d'accord? Donc lui, il veut récupérer son argent. Il dit, attendez, j'ai mis de l'argent dedans. Est-ce qu'il peut ou il peut pas? A priori, selon Rav Nachman, on est poussé à dire que Shuma Hadar. Ça veut dire quoi Shuma Hadar?
Ça revient.
Ça veut dire que une évaluation revient.
Une transaction, enfin une évaluation revient.
D'accord? Une évaluation revient, on est d'accord?
Ouais.
Très bien. Donc est-ce qu'on va dire que Rav Nachman pense comme ça?
On va dire que oui.
Donc on va dire que oui, a priori. Répond la Gemara, non. La Gemara repousse, elle dit pas du tout. D'accord? Elle dit qu'on peut te dire que pas du tout. On peut te dire qu'en vérité, Rav Nachman pense qu'une évaluation ne peut pas revenir. Ah, si tu me dis qu'une évaluation ne peut pas revenir, alors pourquoi Rav Nachman a dit
Oui.
que la transaction peut revenir? Hein, si tu me dis que c'est final, c'est absolu, alors pourquoi la transaction peut revenir? On est d'accord? Alors, la Gemara a dit, Ishan Yatam, c'est différent là-bas. Le cas qu'on a mis devant Rav Nachman, c'est un cas particulier. Pourquoi? Des Shuma Betaout Ava, des Aave Kife Meikara. Il te dit, c'est pas la même chose. Il te dit, dans le cas de Rav Nachman, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi c'est pas la même chose? En vérité, Rav Nachman, il pense qu'une évaluation ne peut pas revenir. Comment on appelle ça? Comment on appelle les évaluations des tribunaux? On appelle ça une évaluation? Quand l'huissier vient, il estime, il fait une estimation, comment on appelle ça? Une
Estimation.
estimation? Bon. En vérité, on va dire que l'estimation selon Rav Nachman ne revient pas. Qu'une fois que l'huissier a fait son estimation, c'est fini, on ne peut plus revenir en arrière. Pourquoi Rav Nachman est revenu en arrière dans ce cas? Parce que Rav Nachman, il part de la base que ici, on considère que c'est une estimation erronée.
Tout ça, fini. On pas dit comme ça.
D'accord? Pourquoi l'estimation est erronée?
Il y en a 23.
D'accord? Alors, on va expliquer. On ne regarde pas la suite. Pourquoi l'estimation est erronée?
J'ai eu la réponse.
Vas-y, dis-moi.
C'est parce que lui, il pense que les bijoux, ils ont été perdus.
Et alors?
Et donc, il n'y a pas d'estimation sur quelque chose qui est perdu.
Quoi?
Il n'y a pas d'estimation sur quelque chose qui est
Bien
perdu.
sûr.
C'est l'estimation de la perte.
Bah bien sûr. Pourquoi on considère que l'estimation est erronée? Parce que sur quoi on s'est basé dans l'estimation pour faire l'estimation? On s'est basé sur quoi? On s'est basé sur le fait qu'on pensait que les bijoux étaient perdus. Mais en vérité, est-ce que les bijoux étaient perdus?
Non.
Non. Donc, toute cette procédure qu'on a fait, en vérité, était pour rien.
Ça les retrouve.
Très bien, parce que là on les a retrouvés. Pourquoi Rav Nachman a dit ça? Écoute bien ce que la réponse de la Gemara. Il dit pas du tout. En vérité, Rav Nachman, il pense qu'une estimation d'un huissier ne peut plus revenir en arrière. Elle ne peut pas venir dire, monsieur, non, attendez, rendez-moi mon objet, etc. Moi, je vous repaye l'argent. Non, ça marche pas comme ça. Je sais pas comment c'est dans la française d'ailleurs. Est-ce qu'on peut récupérer un objet? Écoutez, vous avez évalué à 10 000 euros. Tenez, je vous donne 10 000 euros, rendez-le moi.
Non, parce qu'après c'est mis en vente, je crois, non?
D'accord? Très bien. Donc, tu peux plus. Alors. En vérité, je veux te dire que Rav Nachman pense que l'estimation d'un huissier ne peut plus être remise en cause. Tu peux plus revenir, reprendre ton argent, reprendre ce qu'il n'y a pas. Pourquoi Rav Nachman ici a permis d'intervertir la transaction? Parce que Rav Nachman, il pense que là, on considère que l'estimation était erronée. Pourquoi l'estimation est erronée? Parce que étant donné que l'estimation et toute cette procédure s'est basée sur quoi? C'est basé sur le fait qu'on pensait que l'objet était perdu. Mais puisqu'il s'avère qu'en vérité l'objet n'était pas perdu. Donc ça veut dire que toute cette procédure était pour rien. C'est pas
Ouais.
comme un cas d'un vol, qu'il y a eu un vol et qu'on a retrouvé. C'est pas la même chose. Là, c'est une bonne procédure, parce qu'il y a eu un vol, l'objet était réellement volé. Mais là, on est parti de la base que l'objet était perdu. Mais en vérité, est-ce que l'objet était perdu? Non. Donc Rav Nachman écoute bien la réponse de la Gemara. En vérité, Rav Nachman pense que l'estimation d'un Nifshi ne va pas revenir en arrière. Mais là, c'est comme si tu fais appel. C'est comme si tu dis en vérité, monsieur, dès le départ, jamais vous aurez dû m'attaquer en justice. Donc dans ce cas-là, si tu fais appel, on est obligé de tout remettre en arrière. Tu comprends la réponse de la Gemara? Ça veut dire que, est-ce que selon Rav Nachman, une estimation d'un huissier peut revenir?
Non.
Peut-être oui, peut-être non. On n'a pas de preuve ni que oui ni que non. Oh, je peux toujours te dire que non. Ah, alors pourquoi Rav Nachman a permis de reprendre la transaction dès le début, enfin de tout remettre à l'état initial? Très simple, parce que Rav Nachman considère que puisque là l'objet était, là l'objet, on ne le retrouvait plus, on l'a considéré perdu. Et qu'après on découvre qu'en vérité l'objet n'était pas perdu, donc ça veut dire qu'on a fait appel sur le jugement, et on a dû reprendre rétroactivement tout ce qui s'est passé. Donc toute l'estimation qui a été faite, c'est pas qu'elle ne revient, elle n'a jamais démarré. Donc c'est pour ça qu'on rend à chacun son propriétaire. Mais dans un autre cas, un cas standard, c'est évident que l'estimation d'un huissier ne peut pas être remise en cause.
Je ferais quoi par exemple pour les bijoux alors?
Ben pour le cas des bijoux, c'est par exemple si le bijou a été volé.
Ah non, a été volé alors, je, quand je rembourse...
Ou s'ils ont été perdus.
Ils ont été perdus.
C'est vrai que je le retrouve pas, c'est pas la même chose.
Ouais. Et si on, dans le cas du perdu, si on le retrouve?
C'est la même chose.
C'est la même chose.
Oui, c'est la même chose. Que si on part de la base qu'il était perdu et qu'après on découvre qu'il n'était pas perdu, dans ce cas-là, dans la Torah, quand on fait appel et qu'on découvre qu'en vérité, je sais pas comment c'est dans la française, quand on fait appel et qu'on découvre qu'en vérité le jugement n'avait pas lieu de démarrer, on remet tout à zéro. C'est comme ça dans la française? Je pense que c'est comme ça aussi. Tu rembourses tout depuis le début, c'est-à-dire qu'on remet tout à l'état initial. On dit pas, bon, bah maintenant qu'on a déjà échangé, alors toi tu gardes tes bijoux, moi je garde mes trucs, non. On est d'accord? Ça c'est la réponse de la Gemara. Mais ça veut dire que dans un autre cas, ça serait considéré comme une transaction. C'est-à-dire que là, c'est un grand chidouche que la Gemara répond. La Gemara répond qu'en vérité, c'est une transaction. Quand on a échangé les bijoux contre le... Sauf que quoi? Pourquoi Rav Nachman a annulé cette transaction? D'accord? Pourquoi Rav Nachman a annulé cette transaction? Parce que, en vérité, Rav Nachman a démontré que...
C'est une saisie erronée.
Que c'est une saisie erronée. Et donc on fait appel, on reprend tout à zéro.
Mais il ramène aussi le fait que...
Attends, une seconde, avant d'arriver à ça. Rava va donner une autre réponse. Pour expliquer la particularité du cas de Rav Nachman, qu'est-ce qu'avait dit Rava?
Rava, il pensait que c'était...
Que la particularité du cas de Rav Nachman, c'est que c'était pas amical.
Oui, voilà, c'est ça.
D'accord? Et la Gemara rajoute encore autre chose, carrément autre chose. Il y a encore une autre différence avec le cas de Rav Nachman, c'est que dans le cas de Rav Nachman, il y a un autre aspect, c'est le fait que la saisie était erronée. Dans ce cas-là, on prend tout en arrière.
Alors c'est pas à cause de l'amicalité alors?
Je sais pas. Dans ce cas-là, Rava aurait dû répondre cette réponse.
Alors il n'a pas pensé finalement.
Hein?
Visiblement, il n'a pas pensé.
Ah, il n'a pas pensé visiblement.
C'est étonnant.
C'est une meilleure réponse pour Rava. C'est une réponse qui est beaucoup mieux.
Oui.
Au lieu de dire enfin une histoire amicale, pas amicale, c'est une belle réponse, mais c'est une réponse bien meilleure. De répondre, de dire que qu'en vérité, la réponse que pourquoi il lui a pas répondu son maître, c'est parce que dans ce cas-là, il y a une saisie erronée. Pourquoi il n'a pas pensé à Rava? Hein? A priori, d'après le Ritba que je t'ai dit, on a la réponse.
Tu joues pour le Ritba?
Hein?
Tu joues la réponse du Ritba, je sais pas. Le Ritba...
Non. D'après ce que j'ai expliqué tout à l'heure, on a la réponse. Qu'est-ce que ça a expliqué le Ritba? Le Ritba était dérangé du fait même que Rava avait la question. Tu comprends?
Oui.
Donc, si on suit, ça veut dire que selon la réponse de Rava, on comprend qu'est-ce qu'il dérangeait dans la question. Tu comprends? Si Rava avait directement cette réponse-là, la réponse qu'on est en train de dire, on n'aurait pas compris quelle était sa question.
Oui, donc il l'avait pas.
D'accord, donc il l'avait pas. Mais étant donné qu'on a vu que la réponse de Rava, c'est l'aspect amical, grâce à ça, on a pu comprendre quelle était la question de Rava dans sa tête. Avec le cas qu'on a expliqué d'Agmar Babakama. Parce que sinon, on n'aurait pas compris la question de Rava. Tu comprends? Mais ça veut dire qu'effectivement, Rava n'a pas pensé à la réponse de la Gemara ici.
Oui.
C'est une autre réponse.
C'est pas évident, voilà.
Hein?
Ceci quand tu le lis, mais...
Oui. De dire que...
Cette saisie était erronée...
Parce que c'est pas clair, la saisie... En vérité, la saisie n'était pas erronée.
Au moment où on le fait,
voilà.
Elle n'était pas erronée.
Donc, c'est pas bien sûr, au moment où on le fait, elle n'était pas erronée, parce qu'au moment où on le fait, tu l'as bien perdu, l'objet. Et tu la retrouves dans tes affaires. D'accord? Bon. Ça, c'est la réponse de la Gemara. Suite, la Gemara, elle dit. La Gemara, elle amène donc la machloket, une autre machloket à propos du concept qu'on vient de dire de est-ce que Shuma Hadar ou Shuma Lohadar. D'accord? D'accord?
Oui.
Donc est-ce que Shuma Hadar ou Shuma Lohadar, ça veut dire est-ce que l'estimation revient ou l'estimation ne revient pas? Bon. Amre Néardé, les sages de Néardéa, disaient la chose suivante. Ils disaient Shuma Hadar, que l'estimation d'un huissier peut revenir. Ad Tressa Yachreshata jusqu'à 12 mois. C'est-à-dire qu'eux, ils pensaient que ça peut revenir, on peut revenir en arrière, mais on a uniquement 12 mois pour revenir en arrière. C'est-à-dire même si l'objet a été vendu, etc. D'accord? C'est pas l'avis de Rav Nachman, hein, juste puisqu'on en a parlé, donc Agmara en parle. Les sages de Néardéa pensent qu'une transaction, l'estimation d'un huissier, peut être remise en cause. C'est pas remise en cause, c'est que je lui dis, écoutez, vous m'avez évalué à 10 000 euros, je vous donne 10 000 euros, vous me rendez mon objet. On se parle plus, c'est bon. On est d'accord? Combien de temps on a pour le faire?
12 mois.
12 mois. Pourquoi 12 mois? Ah, pas la suite, réfléchis. La suite est dans ta tête.
Pourquoi 12 mois?
Pourquoi 12 mois? Reste pas à la place de l'huissier. D'accord? L'huissier a pris mon objet. L'objet chez moi. Il l'a vendu. Donc l'objet chez quelqu'un d'autre maintenant. Je reviens 10 ans plus tard, je dis, ah, j'ai récupéré 50 000 euros, rendez-moi mon terrain. Dans l'autre entre-temps.
Il a pris de la valeur.
Non, c'est pas ça, il a pris de la valeur, il a fait des investissements, il s'est rendu. C'est quoi cette histoire? C'est-à-dire quoi? Personne ne va acheter ce terrain dans ce cas-là.
Ouais. Puis il peut pas rendre le terrain, puis s'il a construit dessus, etc.
Bien sûr, c'est quoi cette histoire?
Oui, mais pourquoi 12?
D'accord. Alors c'est pour ça, on a mis. Lui, il dit qu'à Néardéa, c'est d'après lui, hein, à Néardéa, on a mis une durée de 1 an. Voilà, tu as 1 an pour récupérer ton terrain. Et l'acheteur savait que la première année, il fallait pas faire des gros investissements parce qu'on risquait de reprendre ton terrain. Voilà. Non, pas pour trouver 50 000 euros.
Pour trouver 50 000 euros.
D'accord, on dit voilà. C'est-à-dire que même s'il y avait un acheteur qui achetait l'objet, qui achetait le terrain, il savait que pendant la première année, il fallait pas faire de gros investissements parce que tu risquais de les perdre. Ça, c'est l'avis de, ça, c'est l'avis de, donc, d'apparemment, de sages de NRDA. Véhamar Amemar, et Amemar a dit, Anna, mini Ardea, Anna, moi je viens de Néardéa. Et pourtant, Svirale, je pense que Shuma Adar Leolam. Qu'une estimation peut revenir à vie. Pourquoi? La Gemara a dit, il reta, la lachaele. Chez Shuma Adar Leolam, que Shuma, qu'une estimation revient toujours. Ça, c'est la lacha. Pourquoi? Shum chez Neemar, parce que c'est écrit, va sita ayashar veatov. La Torah nous demande de faire ce qui est droit et ce qui est juste. Et alors? C'est-à-dire que si la personne s'est fatiguée pour récupérer l'argent, pour récupérer donc son objet, on doit lui rendre son objet à vie. Et la halakha est comme ça. Hein, c'est pas comme ça dans la langue française, hein.
Non. Mais même, c'est pas logique, ça.
Hein? C'est-à-dire quoi, Vasita Yachar Veatov? Ça veut dire que, étant donné que la personne, il avait vraiment pas de quoi, et qu'il a cherché de l'argent, et qu'il a réussi à trouver de l'argent, on a l'obligation de lui rendre son objet. Bien sûr, après, si toi t'as fait des investissements entre temps, tu peux exiger qu'on te rembourse tes investissements.
Ouais.
On est bien d'accord. Oui.
Ouais.
On a ce cas, par exemple, dans le cas quand une femme se marie, tous les terrains qu'elle a, les terrains qu'elle avait avant son mariage, appartiennent à son mari. Alors, ils appartiennent pas à 100% à son mari, c'est seulement l'usufruit qui appartient à la femme, qui appartient au mari, mais pas le capital. Bon, si maintenant le mari a investi, il a investi dans les terrains. Pour profiter de l'usufruit, bien sûr. Il divorce. Maintenant, le terrain, avant de se marier, avant les investissements, on va dire, même si on rajoute le... Qu'on appelle ça le...
La construction.
Non, pas la construction. Comment on dit la valeur des choses qui augmentent chaque année.
La valeur vénale.
Non, pas la valeur vénale. Il y a une valeur qui...
La plus-value.
Oui, mais il y a une plus-value... Tu sais, c'est comme dans... Comment on dit ça? C'est comme dans les payes. On indexe toujours les payes par rapport à l'inflation, voilà. Bon, donc on va prendre en compte le paramètre de l'inflation, mais le terrain a pris beaucoup plus de valeur parce que le mari a investi. Le mari, après, il divorce. On prend en compte l'inflation, mais bon, le mari a investi. Il a investi, le terrain, il vaut le double. Il dit, rends-moi, je veux rendre ton terrain, mais tu me rends d'abord ce que j'ai investi. Est-ce qu'il a le droit de le demander?
Je sais pas.
Bien sûr qu'il a le droit. Qu'il a investi.
Mais son investissement, il y aura une partie qui sera usufruit, il y a une partie qui sera...
Non.
Bah oui.
Il a investi dans le terrain. C'est-à-dire qu'il a investi, c'est-à-dire que maintenant le terrain vaut plus cher.
C'est pas le terrain qui vaut plus cher, c'est la construction.
Oui, mais le terrain vaut plus cher. C'est-à-dire que maintenant ce terrain, si tu le revends sur la place, si tu le revends dans le marché des terrains, avant il valait 100 000 euros, maintenant il vaut 300 000.
Non, parce qu'il y a la maison en plus.
Quoi? Il y a la quoi?
Il y a la maison en plus.
Non, oublie la maison.
Bon, alors il a investi dans le terrain, c'est-à-dire il a fait des.
Il a fait des infrastructures,
Il a fait
etc.
des. Non, il a fait des. Ouais.
Il a fait des irrigations, etc.
Irrigation, ouais.
Voilà, que maintenant ça se vend très très bien. Hein, c'est un terrain, tu le vends cash, 300 000. Est-ce qu'il a le droit de récupérer, de réclamer 200 000? C'est quoi dire la fameuse écoute? Soit tu me donnes 200 000, je te rends ton terrain. D'accord? Soit je te paye 100 000, je garde le terrain. Bien sûr qu'il a le droit, il a investi. Compliqué de divorcer, hein?
Oh, moi, je suis pas terrain en même temps, donc.
Donc là, l'achat, ça c'est très intéressant, ça. La Gemara te dit comme ça en une ligne, mais c'est intéressant. C'est que là, l'achat, que Shuma Hadar Leolam, qu'une estimation revient toujours. Ça veut dire que quelque chose qui a été, pris, donc ça veut dire un objet qui a été pris par un huissier peut toujours revenir.
Bon.
On est d'accord?
Au même prix?
Non. Ça veut dire quoi au même prix? Ça veut dire que lui, il a estimé, il l'a évalué à combien?
Attends, à 200 000, je suis allé, je suis dans le 200 000,
Il l'a évalué
récupère
à
mon terrain.
200 000, je te donne 200 000, je récupère mon terrain. Maintenant, si entre-temps l'acheteur a fait des investissements, l'acheteur peut exiger qu'on lui rembourse ses investissements. Il a le droit. D'accord? Il dit, voilà, moi j'ai fait des investissements, pourtant, remboursez-moi mes investissements. Pas de problème, on rembourse ses investissements. Mais le terrain, il reviendra à son propriétaire.
D'accord, et le gars il retrouve ses bijoux. Et ses
Pareil.
bijoux ils valent 100 000.
Pareil.
Attends, il dit je te rembourse les 50 000, tu me laisses tranquille.
Non. Papa. Parce que là, on a expliqué qu'en vérité, si on a retrouvé les bijoux, qu'est-ce qu'Agmar a expliqué?
Prends le terrain.
Le fait qu'on a retrouvé les bijoux, ça prouve que la transaction était erronée dès le début.
Non, faut
Donc
ouais,
on remet tout à la, on
tu
remet
peux
tout à
pas
la case
envoyer.
départ.
D'accord. D'accord.
D'accord? C'est ça le prix du jour, c'est qu'on
Ouais.
remet tout à la case départ.
D'accord.
Ok.
Celui-là, c'est 12 mois et l'autre, c'est
Voilà,
à
l'autre c'est à
l'étalon.
vie. L'autre c'est 12 mois, c'est technique quoi après, parce que l'autre dit 16 mois, on peut pas faire ça à vie, l'autre il va.
Bon, d'accord.
On fait encore quelques cas? Allez. Alors la Gemara maintenant, on va parler de plusieurs cas. 5 cas, je crois. 4 cas. Ouais.
Dans
4
un
cas.
mois et quart, en fait, je commence là.
Ok, et Khazara.
Ah, Razara, faut que je fasse tout seul. Je vais faire qui je vais faire Razara avec toi.
Bon.
Où sont les gens?
C'est à moi qu'il faut poser la question? Hein?
Quand on était là hier, ouais, c'est le chuchite, hein, autour de la table.
Alors, moi on va venir mercredi. Hein?
Moi je suis à Saint-Maur, non pas mercredi. Faut le prendre l'après-midi pour venir.
Donc la Gemara dit la chose suivante. Elle dit Pshita. Donc la Gemara maintenant va parler de 4 cas. Je sais pas si on va les faire aujourd'hui, mais bon, viens, on va essayer de les faire. 4 cas à propos desquels donc on va se poser la question, est-ce que l'estimation peut revenir ou l'estimation ne peut pas revenir? On est d'accord? Quand je dis estimation, ça veut dire est-ce que la transaction, est-ce que la saisie peut revenir ou la saisie ne peut pas revenir? Voilà, on va appeler ça une saisie. Est-ce qu'une saisie peut être récupérée ou pas?
Pas une saisie, c'est spécial. C'est les mots spéciaux, ça n'a rien à voir avec nos droits français.
Bah c'est ce chouma, c'est une saisie.
Non, parce que tu vois bien que si tu peux récupérer au bout d'un an, c'est que ça n'a pas été vendu, c'est que.
Non, c'est même si ça a été vendu.
À
Récupérer.
quelqu'un d'autre?
Oui. Tu le payes à lui l'argent. Et s'il a fait des investissements, tu le rembourses
Donc
l'investissement.
c'est une vente à condition.
Si tu veux, oui. C'est pas une
C'est-à-dire
vente à...
que j'achète ton téléphone
Oui.
à condition
1000%.
que
Oui.
je retrouve le bien.
Oui.
C'est
100%.
compliqué.
Ouais. Donc, ça veut dire la reprise d'une saisie. C'est un grand chidouche, hein. C'est un très grand chidouche
Oui,
qu'on est en train
c'est
de dire ici.
nouveau.
Donc, la caméra dit pshita, c'est évident. C'est un autre style, la mafkid, hein, que ce qu'on faisait avant. Un peu plus, bien
Là,
plus.
c'est que du droit, là. Ça n'a
Ouais,
rien
c'est
à
du
voir
droit.
avec la Torah, quoi. Je veux dire, à la limite. Frère.
Rien à voir avec les trouvailles, quoi.
Ah, mais
On
non,
n'est
mais rien à voir avec la
pas
Torah en
sur un pasouk,
général.
là, ouais,
On n'est pas
on est
sur
cas juridique.
le bien, le mal. Voilà.
Alors, pshita, c'est évident. Ah, c'est compliqué de voir comment ils
Non, mais
expliquent
lui,
ça.
quelqu'un qui n'est pas juif, il vient ici. Tu fais ça. Oh, mais c'est comme s'il allait en cours, tu vois, il n'y a aucune différence.
On a quand même quelques valeurs qu'on apprend au passage.
Ouais, je veux,
Tu vois,
ouais.
par exemple, la valeur qu'on vient d'apprendre, Vashita Yashar Ve'atov. Il dit que comme c'est écrit Vashita Yashar Ve'atov, que la Torah te demande de faire ce qui est droit et ce qui est juste, c'est-à-dire même si c'est pas logique et même si c'est pas même si c'est pas même si c'est pas à ta convenance, bah, tu dois le faire. Donc, on s'adresse à l'acheteur potentiel, on lui dit, monsieur, tu dois rendre à ce propriétaire puisqu'il a retrouvé l'argent. Une valeur, ça. C'est pas rien.
Je sais pas si c'est si, ça c'est une question d'exploitation parce que tu pourrais dire que c'est le contraire. C'est-à-dire que
D'accord?
c'est pas droit et juste.
Si?
Parce que le gars il a acheté, il a fait les investissements, il s'est atta... non, il s'est attaché.
Mais il savait. Quand tu achètes, quand on achète un terrain saisi, on sait que on risque de le récupérer. C'est pour ça qu'il est moins cher. Prends un terrain saisi est beaucoup moins cher parce qu'on sait. Enfin, en France, mais je dis qu'à l'époque, le terrain saisi était beaucoup moins cher parce qu'on savait que parce qu'on peut te reprendre ton terrain. La halakha est comme ça. Donc maintenant, on va parler de 4 cas. Pshita, c'est évident, ça c'est évident que Shamoulé, les Balchov, si on a fait une estimation, les Balchov, ça veut dire les Balchov, ça veut dire quoi les Balchov? Ça veut dire à une personne qui doit de l'argent, comment il appelle, comment il traduit ça, Balchov? Un créancier? D'accord? Donc si on a fait une estimation pour un créancier, ve azal iou, ve shama, les Balchov d'idée, ça veut dire comme ça. Imagine-toi que moi je dois de l'argent à Yaakov. Oui? Je dois de l'argent à Yaakov. J'ai pas de quoi rembourser.
Donc je vois ma créance.
Donc on fait une estimation et on va prendre mon terrain. On dit je te dois 10 000 euros. On va prendre une partie de ton terrain qui vaut 10 000 euros. On fait une estimation. Voilà, faut prendre tant d'hectares pour rembourser 10 000 euros. On est d'accord? Ve'azal iou, ve'shama le balchov d'idée. Ensuite, d'accord? Toi Yaakov, tu devais aussi de l'argent à quelqu'un. Et toi aussi tu n'avais pas de quoi rembourser. Donc du coup, ce terrain a été encore une fois saisi une deuxième fois. D'accord? Donc forcément, on n'est pas sûr que les saisies ont toutes eu la même valeur. On est d'accord? Il y a eu deux saisies. C'est-à-dire que toi, tu as saisi mon terrain, et après, quelques temps après, tu t'es fait saisir toi aussi. Concours de circonstances. D'accord? Alors, c'est quoi le problème ici? D'accord? Donc, le propriétaire du premier terrain peut revenir. Donc moi, ça veut dire je peux revenir chez Monsieur Lévy et récupérer directement le terrain. D'accord? Et lui, il ne peut pas me dire, non mais moi je l'ai pas pris de chez toi, je l'ai pris de chez lui. Ça veut dire, non, écoute, non, non, non. Moi, le terrain, je l'ai pas acheté. Le terrain, je l'ai pas acheté chez toi. Le terrain, je l'ai acheté chez Yaakov.
Ouais.
Donc va chercher le terrain chez Yaakov. D'abord, va chez Yaakov, donne-lui l'argent et lui il va venir me récupérer le terrain. Alors que sur ce cas-là, c'est évident que la question ne se pose pas. Que moi je peux aller directement chez la personne à laquelle chez laquelle mon terrain est arrivé finalement. Parce qu'un terrain, on sait où il est, un terrain ne bouge pas. Quand c'est un objet, c'est difficile à le suivre.
Donc entre le deuxième et le troisième, il demande la condition aussi.
C'est toujours à condition. D'accord? Mais la question qu'on se pose ici, c'est. La question qu'on se pose ici,
Qu'est-ce que je
c'est.
dois aller voir?
Voilà, qu'est-ce que je dois aller voir? Est-ce que je dois aller voir Yaakov? Ou est-ce que je dois aller voir le troisième? Non, c'est possible qu'il y ait des années qui sont passées, hein.
Oui.
D'accord? Mais comme je dis, pourquoi c'est plus facile avec un terrain? Parce que le terrain ne bouge pas. Donc tu viendras toujours, il y aura toujours un propriétaire.
Donc moi je peux jamais le vendre. Enfin, si, je peux le vendre mais à condition à chaque fois.
Non. Oui, tu peux le vendre mais à condition. Les gens
En gros,
savent.
si tu le partages en 10 parcelles.
Les gens savent qu'on s'est écrit qu'avant d'acheter un terrain, on allait au tribunal, on se renseignait s'il n'y avait pas une affaire dessus.
Voilà.
Comme un faux greffe aujourd'hui.
Ouais.
On sait ce qui se passe sur ce terrain. Toi, c'est toujours un faux greffe. Voilà, un faux greffe betdeal.com.
Ouais.
D'accord? Et voilà, ce terrain-là, ta 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 ta.
Il a depuis 3 générations.
Voilà, trois générations, Yovel ici, Shmitala, tatatata, attention, valeur estimée, tant. On sait, on se trompe pas. D'accord? Alors, donc c'est évident, Deamrinan, que dans ce cas-là, on lui dit Deamrinanle, Loadifat, Migavra, Deatit Miné. D'accord? C'est évident que dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on te dit? Dans ce cas-là, on te dit, j'ai pas besoin de passer par toi pour récupérer le terrain, je peux récupérer directement chez la personne.
Il a récupéré.
Destinataire, c'est la personne qui a récupéré le terrain. Pourquoi? Parce qu'on lui dit Lo adifat migavra deatit miné. On s'adresse à Yaakov, on lui dit pas à Yaakov, on va s'adresser pardon à la troisième personne,
Oui.
celle qui dit mais non, moi je connais que Yaakov, mon interlocuteur c'est Yaakov. Oui? Lui veut gagner du temps, ou bon, peut-être qu'il est sincère, il dit mon interlocuteur c'est Yaakov, je vous connais pas monsieur. Allez voir Yaakov et lui peut-être qu'il est récupéré de chez moi. On lui dit, on s'adresse à ce monsieur-là, et on lui dit, tu n'es pas mieux que la personne. D'accord? Qui t'a donné le terrain? Que de la même manière que toi, j'aurais pu récupérer le terrain directement chez toi. Donc on a un principe qui s'appelle Dayo Laba Minadin Liot Kanidon, que tu ne peux pas avoir plus de droits que la personne chez laquelle tu as acheté l'objet. On est d'accord? Donc si la personne, si toi Yacob, la personne chez qui il a récupéré l'objet, j'aurais pu récupérer directement. Donc toi, tu ne peux pas avoir plus de droits que Yacob en disant hein, que pour me le récupérer de chez moi, il faut d'abord passer par Yacob. Non, tu peux avoir plus de droits.
Non.
Puisque moi j'avais le droit de le récupérer chez Yacob, je peux le récupérer chez toi.
D'accord.
On est d'accord ? Ça c'est évident. C'est évident.
D'accord.
C'est-à-dire qu'en vérité, le terrain, si tu veux, il garde toujours une signature. La signature, c'est quoi la signature du terrain ? C'est le propriétaire initial. Toujours. On est d'accord ?
Chita, ça vient de Pachout ?
Puis Pachout, ouais. Ça, c'est évident. Maintenant, on a une autre question.
Ça vient de Pachout aussi ou ça vient de...
D'accord ?
Non.
Si, ça vient de Pachout aussi, oui, bien sûr. Alors, maintenant, on a une deuxième question. Zabna. Si maintenant, toi, Yaakov, tu ne t'es pas fait récupérer en tant que créance, mais tu te l'es fait voler. Tu l'as vendu.
Oui.
Ça, c'est autre chose.
Attends. Aussi.
Si tu l'as vendu, Zavna, si tu l'as vendu, ou bien, bon là c'est pas Yaakov, c'est une autre personne, Urta, il a donné en héritage. C'est-à-dire qu'entre temps, il y a eu changement de propriétaire. Mais pas changement de propriétaire dans le cadre d'une créance. Parce que dans le cadre de la créance, je peux comprendre qu'on a expliqué dans le premier cas de la Gemara, on dit au monsieur, on lui dit, tu peux pas être plus fort que la personne, d'accord, de laquelle tu as récupéré ton objet. Mais parce que là, toi, tu l'as récupéré en tant que créance, et lui, il l'a récupéré en tant que créance. Donc, on dit, créance,
oui.
Tu le récupères.
Oui.
Là, c'est différent. Parce que là, il y a eu changement de propriétaire.
Bah oui.
D'accord.
Alors.
Soit il a vendu, soit Urta, ça vient du mot Yerusha, parce qu'en araméen, le Tav et le Shin s'inversent. Le Tav en araméen correspond au Shin en hébreu, très souvent. Donc, Yerusha en hébreu, c'est un héritage. D'accord. Donc là, Urta, c'est quoi Urta? Tu inverses le Tav avec le Shin, ça fait Urcha.
Urcha,
Yerusha. Héritage. D'accord ? Alors, donc Zabna, s'il a vendu, ou bien Urta, s'il est passé en héritage. Troisième cas, Viyabab Matana, ou bien s'il a donné en cadeau. C'est quoi le point commun qu'il y a entre ces trois cas-là ? C'est qu'il y a eu changement de propriétaire, mais c'était pas dans le cadre d'une...
Transaction.
D'une créance.
Une créance.
D'accord ?
Ouais.
Il y a eu un changement de propriétaire, donc c'est soit un cadeau, soit un héritage... soit une vente, mais c'est changement de propriétaire, c'est pas dans le cadre d'une créance. C'est pas dans le cadre d'une saisie.
Alors pourquoi on parle de ça alors ?
Attends. Et moi après, Mendy Assoulim, je vais récupérer mon terrain. Alors je vais te voir Yaakov, je vais voir le terrain, je vois qu'il y a, c'est pas Yaakov, je dis, ah mince, c'est à qui il appartient le terrain ? On dit, écoutez, Yaakov il a vendu le terrain, il avait pas de quoi, il a vendu, voilà, nous on est le propriétaire du terrain. Est-ce que j'ai le droit de le récupérer directement chez eux, ou je dois d'abord passer par Yaakov ? Alors écoute bien la question de la Gemara. La Gemara a dit, Vadaï, dans ce cas-là, c'est évident également dans ce cas-là, c'est pas chouette, il n'y a pas de question, que Hane Meikara Adata Dehara Nachut Velav Adata Dezuze Nachut. C'est évident, d'accord, que eux, ces gens-là, ils sont venus pour récupérer le terrain et pas pour récupérer l'argent. C'est extraordinaire ce qu'a dit la Gemara ici. C'est une leçon extraordinaire. Il dit, c'est évident que ses clients, quand ils sont venus acheter le terrain, est-ce qu'ils sont venus acheter une valeur commerciale ou est-ce qu'ils sont venus acheter un terrain ?
Ils sont venus acheter un terrain.
Un terrain. C'est pas du tout la même chose. Parce que si une personne est venue acheter si une personne est en train de faire de l'immobilier,
il est pas obligé
de
vendre,
ouais. Il a payé 200 000 euros, tu lui rends 200 000 euros, tu lui dis tu me rends mon terrain, je te connais plus. Mais là, le problème, c'est que ces gens-là n'ont pas acheté une valeur commerciale. C'est pas un investissement. Ces gens-là ont acheté un terrain, c'est-à-dire qu'ils vont faire un investissement dedans. Et donc, nous dit la Gemara, c'est évident que c'est pas juste. Que même si normalement, pourquoi on a dit qu'une saisie peut toujours revenir ? Parce que Véasita, Yachar, Véata, il faut faire ce qui est droit, ce qui est juste. Or là, est-ce que c'est droit et c'est juste de leur reprendre le terrain à eux ? Non, puisque eux n'ont pas acheté une valeur commerciale, que tu peux leur rendre l'argent. Eux n'ont pas acheté 100 000 euros, que tu leur dis voilà 100 000 euros, laissez-moi tranquille. Eux ont acheté un terrain. Donc c'est méchant de leur reprendre le terrain. Donc est-ce qu'on peut leur reprendre le terrain dans ce cas-là ?
Non.
Non. D'accord, ce que tu voulais dire tout à l'heure.
Pourquoi ces méchants-là et c'était pas méchant tout à l'heure?
Parce que tout à l'heure, justement, ce qu'on expliquait ici, c'est que tout à l'heure, c'était dans le cadre d'une créance. C'est-à-dire que toi, Yaakov, je te devais de l'argent, tu t'es servi.
Ah ouais.
Tu comprends?
Oui.
Ça veut dire que pour toi, Yaakov, tu n'es pas venu acheter un terrain. T'es venu récupérer une valeur commerciale.
Oui.
Mais attends, toi, tu fais ce que tu veux, après t'as investi, c'est tes affaires, mais t'es venu récupérer une valeur commerciale.
Alors, ce qu'il a acheté, c'est pour construire, c'est pour...
Tu comprends? Ça veut dire que toi, Yaakov, tu me devais de l'argent, t'avais pas qu'à me rembourser. Donc qu'est-ce que t'es venu me prendre? T'es venu me prendre de l'argent. Tu dis, bon, t'as pas d'argent, je te prends un terrain. Mais tu m'as pris le terrain en tant que valeur commerciale. Pas en tant qu'investissement.
Et quand même, t'as le droit de le vendre.
Oui. Est-ce que tu
ouais,
me suis bien ce que je te dis,
ouais.
Faut bien faire la différence entre ce qu'on prend un terrain en tant que valeur commerciale ou est-ce qu'on prend le terrain en tant qu'investissement.
Ouais.
Si tu le prends en tant que valeur commerciale, c'est évident qu'on a expliqué que dans ce cas-là, je peux te le récupérer.
D'accord.
Même si tu me l'as saisi.
Ouais,
parce que tu l'as pris en tant que valeur commerciale, combien tu l'as pris parce que je te devais 100 000 euros, je te rends 100 000 euros, tu prends mon terrain.
D'accord, alors que là, c'est pas pareil.
D'accord. Là, c'est pas pareil.
Il n'y a rien à voir avec l'histoire.
Là, c'est qu'il n'y a rien à voir.
Pas de créance,
pas de créance et c'est méchant.
C'est un pour,
d'accord.
D'accord.
C'est pas Vasta Yachar Véatov. D'accord.
Oui,
d'accord. Étant donné que la raison pour laquelle on peut récupérer une saisie, c'est parce que Vasita Yachar Véatov, c'est parce qu'il faut être juste, il faut être droit, d'accord. Et que toi, finalement, le créancier, t'as rien à perdre, puisque tu voulais 100 000 euros, tiens, je te donne tes 100 000 euros, laisse-moi tranquille. T'as fait un investissement, je te rends ton investissement. T'es pas venu m'acheter un terrain, t'es venu prendre de l'argent. Alors je te rends ton argent, tu me laisses tranquille. Mais là, dans le deuxième cas, c'est évident qu'on peut pas appliquer cette règle-là, d'accord.
Oui, ce qui est étonnant, c'est que tu puisses le vendre tout court.
Oui, bah, parce que c'est possible que l'autre n'a pas de quoi me rendre, il faut bien que je le vende, etc. Troisième cas. Donc ces deux cas, c'est évident. Donc là, on a pris les deux extrêmes. Ça veut dire que quand on a pris le terrain pour sa valeur commerciale, et pas en tant qu'investissement, c'est évident qu'on peut récupérer la saisie. Quand on a pris le terrain pour... Quand on a pris le terrain, on a dit en tant qu'investissement... Après, ce même terrain a été vendu en tant qu'investissement pour quelqu'un, c'est évident qu'on peut plus le récupérer, parce que c'est un investissement pour lui, c'est pas une valeur commerciale. Même si tu lui dis, voilà, vous avez payé 100 000 euros, je vous rends 100 000 euros, il va dire, oui, mais moi, je l'ai acheté pour investir, j'ai investi. Quoi ? Eh ben, ça veut dire pour construire, pour faire un investissement. D'accord ? Moi, je ne l'ai pas acheté en tant que valeur commerciale, je ne fais pas de l'immobilier. Je l'ai acheté parce que je veux m'installer ici, parce que j'ai...
C'est pas valeur commerciale.
D'accord ? C'est pas... Non ? Je n'ai pas acheté...
Le terme valeur commerciale n'est pas juste.
De quoi ?
Dans ce cas.
Non, non. Le valeur commerciale, c'est le premier cas, c'est pas le cas d'investissement. Il y a soit je récupère un terrain, soit c'est dans le cas d'une saisie, ça veut dire qu'on le prend pour sa valeur.
Sa valeur vénale.
La valeur vénale, si tu veux, d'accord. Soit, c'est un client qui l'a acheté en tant qu'investissement.
Oui, il l'a acheté pour...
Il l'a acheté, il a besoin du terrain, il a pas acheté pour avoir 100 000 euros dans la poche.
Ouais, il l'a acheté pour construire, ou pour faire quelque chose, ou
alors,
faire un parc de jeux, une piscine, quelque chose.
C'est quoi, alors? C'est quoi? Je crois que vous avez oublié de mettre la kippa. Hein? Vous voulez une kippa? Ah. Ok, donc ça c'est évident.
Oui,
troisième cas. D'accord? Troisième cas. Chamoula Laïcha. Si maintenant...
C'est une acquisition, ça.
D'accord?
C'est acquisition.
Oui, mais une acquisition...
Une acquisition.
Voilà.
Acquiert,
oui.
Un investissement, c'est pour se vendre en valeur.
Ça veut dire qu'il va s'en servir. Oui, d'accord,
un,
bon.
Ça veut dire qu'il. C'est l'utilisation.
Oui. Ça veut dire qu'il va s'en servir.
C'est pas neuf. Non, utilisation, c'est pas l'investissement.
Bon.
Investissement, ça rapporte. Enfin, ça rapporte pas, j'utilise. Je t'en vais sur le terme, parce que les deux termes sont presque faux. Ils sont presque pareils. Commerce et investissement, c'est presque pareil. C'est pareil. C'est pour ramener de l'argent. Tu payes un, tu vends deux. Ou tu travailles dessus, c'est revenu. D'accord. De toute façon, si c'est pour utilisation, c'est utilisation. C'est neuf. J'achète pour moi, pour plaisir. Je vais m'asseoir sur un arbre. J'ai droit. Enfin, cet arbre, il est beau, je m'assois. Ça, c'est une acquisition. Là, si tu veux le revendre, tu peux mettre des chaises sous l'arbre et tu loues des chaises là et tu les mets sur la plage. Ça, c'est un acquisition.
D'accord, j'ai compris, oui. Oh, d'accord, on va pas appeler ça investissement. D'accord. Maintenant, troisième cas. Troisième cas. Non, là, dans la Gemara ici, ce sera pas différent. C'est juste, on a pris les deux. Alors, on a voulu faire la différence entre une saisie et un achat normal. Troisième cas. Chamoula Laïcha. Si maintenant, il y a quelqu'un qui devait de l'argent à une femme. D'accord? Quelqu'un qui devait de l'argent à une femme. Et qui n'avait pas de quoi le rembourser. Donc elle est partie au tribunal, elle est attaquée en justice, et on lui a remboursé, donc on lui a évalué on est parti prendre chez le créancier, on est parti prendre un terrain à la place. On lui a évalué un terrain. Vein Tsiva, donc cette femme a récupéré un terrain, elle n'est pas mariée encore. Elle a récupéré un terrain. On lui devait 50 000 euros, elle n'a pas de quoi rembourser. On dit bon voilà madame, elle a récupéré chez un créancier le terrain. Un terrain qui vaut 50 000 euros. On est d'accord?
Oui.
Entre temps, cette femme se marie. C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, lorsqu'une femme se marie, d'accord, elle garde toujours le capital du terrain, mais l'usufruit appartient à qui?
Aux deux.
L'usufruit appartient à qui?
Au mari.
Appartient au mari. C'est le mari qui va nourrir sa femme.
Ah ouais, ouais, c'est le cas, le mari. Que... Ouais, non, mais ça dépend,
d'accord,
ça dépend des femmes, attends.
Alors.
Ça dépend des femmes.
Oui. Donc. Ah, parce qu'il faut savoir aussi que dans une... Enfin, il fait... parce qu'il faut... Bon, il faut... Quand on se marie, c'est pas facile, hein. Donc, quand on se marie, on peut... Il y a deux options. Première option, quand on se marie, c'est qu'on décide. C'est que les biens sont ce qu'on appelle nirsemelog. Ça veut dire que tous les biens de la femme, le capital continue à lui appartenir. Et l'usufruit appartient. Donc, l'usufruit, on l'a dit, appartient au mari. Soit, ça peut être encore un autre contrat dans lequel on dit que c'est nirseton barzel. Nirseton barzel, ça veut dire qu'on considère que le capital et l'usufruit appartiennent au mari. Je crois qu'il y a un terme en français quand on se marie sous...
Ouais.
Il y a un terme en français.
Ouais.
Je me rappelle quand je suis parti me marier, on m'a demandé est-ce que vous voulez vous marier avec un contrat, j'ai oublié le terme.
Il y a communauté des biens, c'est ce que tu viens
voilà.
De dire.
Voilà, il y avait un truc comme ça.
Régime universel, je crois.
Il y avait un nom, je me rappelle, me demander. Ouais.
Régime universel.
Enfin, moi, on savait pas ce que c'était, on a dit, excusez-moi, de quoi vous parlez. Il dit, non, c'est bon, on sait rien.
Allons comme ça.
Alors, donc, entre-temps, la femme...
T'as pris quoi, alors?
Quoi?
Communauté?
Moi, je suis marié sans communauté des biens, non.
Séparation des biens, alors?
Normal, quoi. Je crois qu'il y avait un truc, il fallait rajouter un autre contrat spécial, on s'est marié normalement. Ah, d'accord. Donc?
Vous avez communauté, alors?
Oui, mais apparemment, je crois que quand il y avait séparation des biens, il fallait venir avec un avocat et tout, ça c'était un
non,
truc...
Non.
Voilà. Voilà. Bon. Alors. Donc la question qu'on se... Donc maintenant, entre-temps, la femme se marie. Entre-temps, la femme se marie. Mais d'accord ? La femme s'est mariée. Et peu importe, soit le terrain et l'usufruit, soit le capital et l'usufruit appartiennent au mari, ou soit uniquement l'usufruit. Mais il y a forcément quelque chose qui appartient au mari. Mais d'accord ? Bon. Ou bien, deuxième cas, Shamu Mina Deisha. Ou bien, c'est la femme qui devait de l'argent, hein, qui n'avait pas de quoi rembourser. Elle n'est pas mariée encore. Elle n'a pas de quoi rembourser. Elle avait un terrain. On récupère son terrain. Donc elle a tout perdu. Elle n'a pas de quoi rembourser. Elle a pris son terrain. Vein Tiva et elle se marie. D'accord ? Ou Meta. Et après, dans ces deux cas, la femme est morte. Qu'est-ce qu'on fait ? Ah, c'est quoi le problème ?
Moi, je connais mon fils Kadish.
D'accord ? Baal ben Irse Ishto, Loker Ave. Qu'est-ce que dit la Gemara ? Elle dit, on considère que les Chachamim ont considéré le mari dans les biens de sa femme comme un client et pas comme un héritier. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'Omihada, ça veut dire que il n'a pas besoin de rendre le terrain. Je répète.
De rendre le terrain ?
Je reprends le cas. Imagine-toi, d'accord, que je me marie avec une femme. Maintenant, cette femme, avant son mariage...
Elle perd son terrain.
D'accord ? Non, au contraire, on va prendre le premier cas d'abord. Cette femme, avant son mariage, quelqu'un lui doit de l'argent, une grosse somme. Il n'a pas de quoi rembourser.
Elle récupère le terrain.
On a expliqué qu'une saisie peut toujours revenir, selon la Torah. C'est-à-dire que si l'autre vient et te ramène 50 000 euros, tu dois lui rendre le terrain. Bien sûr, s'il y a eu des investissements, bah, il te remboursera les investissements. Mais tu récupères ton terrain. On est d'accord ? Bon. On écoute bien la question. Cette femme, donc, a récupéré un terrain de quelqu'un, de Monsieur Rouven, qui lui devait de l'argent, elle a récupéré, elle a un terrain. Elle se marie. Le terrain, il passe à qui ?
Shimon.
D'accord ? Le terrain, il passe à son mari. Cette femme meurt. D'accord ? Comment on considère le mari ? Est-ce qu'on considère le mari comme un héritier ? Ou est-ce qu'on considère le mari comme un client ? Ça change tout. Si tu considères le mari comme un héritier, dans ce cas-là, le mari a le même pouvoir que la femme. Et de la même manière que, on a expliqué qu'une saisie, on peut toujours la récupérer, chez la personne qui a fait la saisie. Donc, c'est de la même manière qu'on pouvait récupérer chez la femme, on peut le récupérer chez le mari.
Bon.
Qu'est-ce que tu dis, le Rami? Ils te disent non. Ils te disent, le mari est considéré comme un client, comme
c'est
un acheteur.
Comme un
c'est-à-dire comme la troisième personne que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire comme une personne qui a acheté de chez la femme. Et que dans ce cas-là, tu peux pas venir et reprendre. La saisie, si la personne a vendu la saisie, tu peux plus récupérer le terrain.
Parce que la femme a transmis son capital au mari.
Oui. Mais en tant que client. Pas en tant qu'héritier.
En tant qu'investisseur, en
voilà, en tant qu'investisseur. Pas en tant que valeur commerciale.
Voilà.
On est d'accord ? Valeur vénale, si tu veux.
Bon. Valeur vénale.
Donc, l'omehada, velomehadrinenle. C'est-à-dire que ni la femme doit rendre, et ni on peut reprendre le terrain. En d'autres termes, c'est considéré comme si que le mari est un client.
D'accord, une fois qu'elle se marie, c'est fini.
Une fois qu'elle se marie, et qu'elle est morte.
Et qu'elle est morte.
Ah oui. Une fois qu'elle se marie et qu'elle est morte, le mari, D'accord ?
Jusqu'à preuve du contraire.
Le mari est considéré comme acheteur des biens de sa femme. Ça change beaucoup de choses.
Dans le cas du mariage où...
Excuse-moi, attendez, tu peux fermer la porte ? Il y a un chien qui tourne autour là, je sais pas ce qu'il veut, je crois qu'il va rentrer dans pas longtemps. Une fois, il y en a un qui est rentré comme ça, dans le cours des jeunes. Il est rentré jusqu'ici. Un chien noir en plus.
Hein ?
T'as fait la Gmara Brachot ? Celui qui ouvre les démons, comment il doit faire ?
Ah non, c'est pas avec un
c'est un chat.
Avec un
chat noir.
Avec le placenta.
Un chat noir.
Ah non, avec le placenta. D'accord.
Alors attends.
De la fille d'un chat noir.
Oui, d'un chat noir.
Ah.
Fille de...
fille de chat noir.
Alors, viens, on continue, on finit. Donc c'est évident que le mari est considéré, on a expliqué, comme un
client.
Le mari est considéré comme un client. Donc, il peut rien reprendre en arrière. On part de la base que si c'est un client ne peut rien récupérer. On est d'accord ? Maintenant, quatrième cas. Déjà, ma Rabbi Yosef Bachanina, on finit avec ça, parce que Rabbi Yosef Bachanina a dit, Be Usha, dans la ville de Usha. Usha, c'est la ville dans laquelle le grand Bedin de Jérusalem est parti en exil. Quand il y a eu l'exil, le grand Bedin de Jérusalem a été exporté dans la ville de Usha. Exporté, hein. Ils sont partis là-bas. Ils ont dû partir, malheureusement. Alors, parce que la Gemara Rosh Hashanah, elle développe, elle dit que le Sanhedrin a fait dix voyages, 10 étapes. D'accord ? Et la dernière étape à laquelle ils sont arrêtés, c'est Usha. Il y a eu plusieurs takanot, plusieurs choses qu'ils ont instaurées là-bas, les Chachamim, et qu'on les appelle toujours les takanot de Usha, qu'on a instauré à Usha. Donc, Diam, Rabbi Yosef Bachanina, Rabbi Yosef, le fils de Chanina, dit, mais Usha, dans la ville de Usha, donc où il y avait le grand Beddin, Itkin, où là-bas les Chachamim ont instauré, c'est à chaque fois que vous voyez dans la Gemara, à Usha on a fait, c'est de quoi on parle. À Usha, les Chachamim ont instauré, Shaisha Shemacha Benirse Melog Bechaye Barla. Une femme qui a vendu, Nirse Melog, ça veut dire des biens dans lesquels elle a toujours le capital, mais plus l'usufruit. Bechaye Bala du vivant de son mari. Ils ont dit la chose suivante, c'est encore un troisième cas. Une femme qui a décidé de vendre son capital. Elle a le droit de vendre son capital ou pas? Elle a un capital, elle s'est mariée, elle avait un terrain. D'accord? Le mari a l'usufruit. Maintenant, elle a le droit de décider du vivant de son mari de vendre le terrain. Et pour récupérer de l'argent qui lui appartiendra. Mais, à condition que l'usufruit continue à appartenir au mari. Ça veut dire, elle dit à la personne, elle dit, je vous vends le terrain. Mais il faut attendre que mon mari meure. Sans que mon mari ne meure pas, le terrain vous appartient, mais l'usufruit appartient à mon mari. Mais la valeur vous appartient. Ça veut dire que, bon, s'il n'y a pas de yovel, etc., ça peut être intéressant. Elle peut le vendre pour pas cher, parce que c'est raconté l'histoire dans la Gemara. Des fois, il y avait des femmes qui avaient besoin de cash. Et elle n'a aucun moyen de tirer de cash de son mari. Alors, qu'est-ce que faisait ? Elle vend son terrain. Le terrain, il vaut 1 million d'euros. Elle le vend une bouchée de pain. Elle vend 50 000 euros. Elle dit, mais il faut attendre que mon mari meure.
Ouais. Le terrain appartient.
Le terrain, il appartient à cette personne. Mais l'usufruit appartient au mari.
Avant la vente, il appartient
à qui ? Avant la vente, il appartient à la femme. Parce que le capital appartient à la femme. Quand c'est Nirse Melog, on l'a dit tout à l'heure, le terrain appartient à la femme.
C'est pas la vente.
Alors, Shabaral Moti Miyad Alekuchot. Et qu'est-ce que les Chachamim ont instauré ? Les Chachamim ont instauré que le mari, d'accord, que si la femme meurt dans ce cas-là, Abal Moti Miyad Alekuchot, que le mari peut récupérer ce champ des acheteurs. Pourquoi ? Puisque les Chachamim ont considéré, comme ce qu'on a expliqué, que le mari dans les biens de sa femme est considéré comme un client, comme un acheteur. Et lorsque sa femme va mourir, qu'est-ce qu'il va dire le mari ? Le mari va dire, moi j'étais client avant vous. Parce que moi, ma date de client, de quand elle date ? De la date du mariage. Vous avez acheté après, moi j'étais client avant vous. Qu'est-ce qu'on dit dans Usha là-bas ? Ils ont dit que, après la mort de la femme, le mari peut récupérer le terrain. Donc en l'autre terme, la vente n'a servi à rien. Bah oui, parce que lui a vendu, il a dit vous récupérez après la mort. Et les Chachamim ont instauré que, étant donné que le mari dans les biens de sa femme est considéré comme un client,
il a besoin de racheter.
Donc si on a deux clients qui se présentent et qui disent que le terrain leur appartient, on ne sait pas à qui appartient, lequel on prend toujours le premier. Celui qui a une date antérieure. Qui a une date antérieure ici ? Le mari. Donc ça confirme ce qu'on vient de dire, que le mari est considéré comme un client dans les biens de sa femme. On est d'accord ?
Oui, ça veut dire la même chose. Le cas précédent, le client, ça voulait dire que. Ça voulait dire que si on pouvait pas lui racheter le terrain,
voilà.
Parce qu'il
voulait
investir, mais là non.
Là aussi.
Tu pourrais comprendre que normalement il faut lui.
Non.
Normalement c'est lui qui.
Là le chidouche. C'est que bien qu'il était marié avec cette femme là, on le considère comme un client. Ça veut dire que un client, on peut pas. Si le terrain a été vendu, si un terrain qui a été saisi, on a expliqué, il a été vendu, on peut plus récupérer ce terrain de l'acheteur parce qu'on considère que lui il a déjà investi dedans.
Oui, mais ça veut dire que la femme en fait elle a le capital, mais que si elle décède,
voilà.
C'est le mari qui a le capital.
Exactement. Mais c'est le mari qui a le capital, mais en tant qu'acheteur. C'est comme si il a acheté.
Voilà.
Donc puisqu'il a acheté, c'est le premier client, il récupère en premier. Donc on reprend notre cas. Le mari, puisqu'il est considéré comme un acheteur, donc on ne peut pas récupérer une saisie. Une fois que la saisie est partie dans les mains du mari, on ne peut plus récupérer cette saisie-là. Puis on considère que c'est comme si le terrain a été vendu à une personne qui a investi.
Donc c'est pour ça que la personne n'achète pas cher.
Oui.
Parce que pour récupérer, il faut que
non, le mari... Non, de toute façon, ça ne sert à rien, personne ne le fait, ça ne sert à rien.
Voilà. En plus, c'est juste avant le Yovel...
Ça ne sert à rien.
Ça sert à rien.
D'accord. Ça, c'est le troisième cas.
Si, si tu sais que le mari, il est malade.
Maintenant, attends, viens, on finit le quatrième cas, après on s'arrête. Maintenant, quatrième cas. Agbehiou. Si maintenant, on a un quatrième cas. Imagine-toi que, Yaakov, je te dois de l'argent. C'est encore un cas complètement différent. D'accord ? Donc si maintenant, Yaakov, je dois de l'argent, j'ai pas de quoi te rembourser. Mais au lieu de passer par un tribunal, avec un huissier, une saisie, etc., comme ce qu'on a expliqué, on va faire plus simple. C'est moi directement qui te donne mon terrain. C'est-à-dire qu'on s'arrange à l'amiable. D'accord ? Donc c'est comme le cas d'avant, sauf qu'au lieu qu'on passe par un tribunal et un huissier, et que là, après, par la suite, je peux estimer que l'huissier a mal évalué mes biens et que je vais récupérer mes biens en rendant l'argent que l'huissier a évalué, d'accord ? Si l'huissier a évalué à 10 000, ben je le rends 10 000 et il rend mon terrain. Là, c'est un autre cas, parce que là, c'est moi qui ai évalué. D'accord ? Là, c'est moi qui ai évalué mon terrain. Je dis, bon, je suis là 50 000, je te donne ce terrain. C'est-à-dire, qui a fait l'évaluation ici ? C'est pas un huissier, c'est moi qui ai fait l'évaluation. D'accord ? C'est moi-même qui ai fait l'évaluation et qui a dit, je pense que mon terrain vaut 50 000, voilà mon terrain.
D'accord.
Bon. Pligé, bar Ravacha, pligé bar Ravacha de Rabina. On a une machloquette ici entre Ravacha et Rabina. C'est quoi la machloquette ? Chadamar Adra, Chadamar Lo Adra. Un, il dit, on sait pas c'est qui un et l'autre, hein, mais la Gemara dit, un, il dit qu'on peut récupérer, l'autre, il dit qu'on peut pas récupérer. Pourquoi ? C'est quoi la machloquette ? Mandamar Lo Adra, celui qui dit que le terrain ne peut pas revenir, ça va, il a pensé, ah, Dvine Maliaou, Diamidatan Nefshagbe. Il dit, donc, pourquoi on a expliqué tout à l'heure qu'on pouvait récupérer une saisie ? Parce qu'on considère que le créancier va dire, le créancier, celui qui donne l'argent, qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire, l'huissier a mal évalué. Mais là, le problème, c'est qu'il n'y a pas eu d'huissier, qui c'est qui a évalué ? C'est moi-même ! C'est le propriétaire du terrain. Donc le bâtiment va dire, mais monsieur, c'est vous-même qui avez donné ce terrain à la place de votre date. Donc vous pensez que votre terrain vaut 50 000 euros. Pourquoi maintenant vous venez, vous dites, je vais récupérer parce que je pense qu'il vaut 100 000, c'est vous-même qui l'avez donné. Donc ça, c'est un premier avis. Il y a un premier avis qui dit que le terrain, on peut plus récupérer. Avis. Que cette saisie est définitive. Pourquoi elle est définitive ?
À la valeur du bien.
Oui, mais on peut plus récupérer. Pourquoi ? Puisque la seule raison pour laquelle on peut récupérer, c'est en disant que c'est quand le propriétaire initial du terrain va dire on a mal évalué mon terrain. Mais là, il peut pas dire ça puisque c'est lui-même qui l'a donné en contrepartie de ce qu'il devait.
Non, mais il peut tenir au terrain pour des raisons X ou Y.
Ah, d'accord. Non. Il faut qu'il dise que le terrain d'après lui valait plus cher que ça. Sinon, il peut pas récupérer. D'accord. Donc il y a un premier avis qui, dans ce cas-là, hein, il peut pas récupérer le terrain. Pourquoi ? Pourquoi il peut pas récupérer le terrain ? Parce que quel argument il va dire ? Il va dire l'huissier a mal évalué. Il n'y a pas d'huissier, c'est moi-même l'huissier.
Je peux pas venir
te voir à la coche, te dire rends-moi mon terrain, il valait 100 000. C'est moi-même qui te l'ai donné pour 50 000. Je te dis, je te dois 50 000, prends mon terrain.
Ouais.
Donc c'est moi qui ai évalué. Ça c'est le premier avis. Ouman Dehamar Adra, celui qui pense qu'on peut toujours récupérer la saisie, même si c'est moi-même qui a évalué et que c'est pas passé par un huissier qui a peut-être mal évalué, ça va, il pense, Lazvina Mahaliaou, il pense que c'est pas considéré une bonne vente. Pourquoi ? Et même si moi, Yaakov, je suis venu te voir, je t'ai dit, prends mon terrain à la place des 50 000 euros, on considère que c'est possible qu'en vérité, moi, dans ma tête, je pense que le terrain vaut 100 000. Pourquoi je l'ai donné pour 50 000 ? Parce que j'ai honte. J'ai honte d'aller au Beit Din, parce que la Gemara explique, elle dit que quand on va au Beit Din, il y a un bruit. Les gens en parlent, ils disent, ah, t'as entendu, il avait pas de quoi, etc. Donc pour pas qu'on en parle, je pense, bon, tiens, prends ce terrain et tais-toi. Je vais te calmer, mais en vérité, dans ma tête, le terrain, il vaut combien ? Il vaut 100 000. Donc le jour où j'ai de l'argent, le jour où j'ai des espèces, je me dis, le jour où j'ai des espèces, je voudrais récupérer cette saisie. Donc c'est pour ça qu'on a une machloquette ici entre Ravacha et Rabina. Est-ce qu'on peut récupérer une saisie ? Mais là, c'est intéressant parce que c'est une saisie qui n'a pas été faite par un huissier. C'est une saisie qui a été faite à l'amiable.
Bon, ça se fait alors.
D'accord ? Marc Loquette.
Tu as un papier ?
Non, entre nous. C'est-à-dire, je te devais 50 000, j'ai pas de collant, je sors un terrain. D'accord ? C'est sûr qu'il y a un papier. Un papier dans lequel je dis, je vais te donner mon terrain à la place. Mais le problème, c'est, est-ce qu'on considère que le fait que je donnais mon terrain moi-même, ça veut dire que c'est un aveu de ma part que le terrain vaut 50 000 ? Marc Loquette. Il y en a un qui dit oui.
Pour 12 mois ou pas ? D'accord. Ou ça n'a rien à voir ?
Ah non, ça n'a rien à voir. Il y en a un qui dit oui, il y en a un qui dit non. Celui qui dit oui, il dit le fait que c'est moi-même qui a proposé mon terrain, ça veut dire que je pense qu'il vaut 50 000. Celui qui dit non, il dit non. C'est possible qu'en vérité, je pense que mon terrain vaut plus que ça. Mais pourquoi j'ai pas rajouté dans les clauses ? Parce que j'ai honte, j'ai pas envie que ça fasse de bruit.
Pour 50 000 euros ?
Je veux fermer l'histoire le plus vite possible. Ramasse tout ça. à cause de la honte.
D'accord.
Qu'une personne, des fois, comme elle veut pas avoir honte, elle veut pas qu'on en parle, donc elle préfère fermer l'affaire, payer, dire je paye,
oui.
Je te donne même quelque chose qui vaut beaucoup plus, mais tais-toi. D'accord. Bon. Alors, je finis avec ça. Ou mais Emat Achil Pere, étant donné qu'on a expliqué qu'en vérité dans la Torah, une saisie peut pratiquement toujours revenir. En tout cas, si elle a été faite par un huissier, on a expliqué que elle peut toujours revenir. Sauf si le terrain a été vendu, 3 quarts, on a dit, vendu.
Si jamais la personne s'est mariée.
Non, trois cas dans lesquels on peut plus récupérer une saisie. Si entre temps le terrain saisi a été vendu,
oui.
Ou il a été
transmis.
Non. Transmis comment ?
À des héritiers.
À des héritiers. Et troisième cas ?
À un mari.
Cadeau.
Cadeau.
C'est trois cas juste avant.
Bah,
dans le deuxième cas.
Okay.
D'accord. Pour réviser.
Pour dire, on
est alors. Donc la question qu'on se pose, c'est où Mehemat Achil Pere. Étant donné qu'on a expliqué que dans la majorité des cas, une saisie peut revenir, que dans quel cas une saisie ne revient pas, c'est si entre-temps le terrain saisi a été vendu, plus qu'une saisie peut revenir, dans ce cas-là, la question qu'on se pose, c'est le client potentiel qui a acheté cette saisie, qui a acheté au tribunal. Enfin, il a acheté au tribunal, comment on appelle, il y a un tribunal où on vend les saisies
Oui. Oui, c'est pas une tribune. Oui,
tribunaux.
Si,
la vente aux enchères. Il y a un nom, comment on appelle ça, non ?
L'hôtel des ventes.
Appel de vente, non ?
Hôtel des ventes.
Bon. Alors la question qu'on se pose, c'est étant donné que selon la Torah, une saisie, tant qu'elle n'a pas été vendue, tant qu'elle n'a pas été vendue par le créancier, elle peut toujours être.
Revenir.
Elle peut toujours revenir. C'est-à-dire que dans le cas de la loi française, ça correspondrait au fait que tant que le terrain n'a pas été vendu dans l'hôtel, comment t'as dit ça ?
L'hôtel
des ventes, je peux récupérer l'objet. Je sais pas si la loi française elle dit ça, mais la Torah elle dit ça.
Je crois pas.
La Torah dit que tant que l'objet n'a pas été vendu à une autre personne, à une tierce personne, on peut récupérer l'objet. Alors la question qu'on se pose, c'est si maintenant l'hôtel des ventes, tu me dis, a envie de profiter de cet objet, est-ce qu'il a le droit ? Il n'arrive pas à le vendre, il dit bon, bah dans ce cas-là, on va l'utiliser pour nous. Est-ce qu'ils ont le droit de se servir de cet objet-là ? Étant donné qu'on part de la base, que c'est une saisie qui peut revenir, rappelez-vous le principe. Donc est-ce qu'il a le droit de s'en servir ou pas ? Est-ce qu'il a le droit de s'en servir ou pas ? Donc de l'usufruit, puisque on part de la base qu'il doit revenir à un certain moment. Et si oui, à partir de quand ? Donc en d'autres termes, est-ce que c'est une saisie ou une hypothèque ? C'est la question. Oui, tu vois la question ?
Oui.
Alors, ou mais Matt Achilpin, M. Mingmara, on finit là. Hein ? Bon, Kertov. Hein ? On a fini, c'est pour ça que... Ou mais Matt Achilpin, Rabba a dit, mais Chimatia Adrachta Leyade. D'accord ? Rabba a dit, à partir de quand on peut profiter de l'objet ? À partir de quand on a le droit de profiter ? À partir de l'instant où arrive le contrat de Adrachta dans ses mains. C'est quoi le contrat de Adrachta ? D'accord ? Le contrat de Adrachta, c'est un contrat particulier. Je sais pas si ça existe en français, en France, ça. C'est un contrat que le Beit Din, d'accord ? Imagine-toi que Yaakov, tu m'attaques en justice, tu me dis, Mendy me doit 50 000 euros, il ne veut pas me le rembourser. Donc le Beit Din va dire, écoute Yaakov, tu dois essayer de faire ce que tu peux pour récupérer cet argent. Donc ils vont envoyer une lettre à toi, envoyer une lettre à moi, ou ils vont nous convoquer les deux, et ils vont nous dire, on vous donne 90 jours pour essayer de récupérer la situation. Maintenant, dès le début, c'est-à-dire au début de ces 90 jours, le Beit Din te donne un contrat à toi, qu'on appelle le Shtar Adrachta. Ça veut dire qu'ils te disent que dès qu'arrive la fin de ces 90 jours, si tu n'as pas reçu cette somme-là, tu as le droit de te servir de ce que tu veux chez moi. Bien sûr, avec une personne assermentée pour, on appelle l'huissier, d'accord, aujourd'hui, pour estimer la valeur. Mais c'est toi qui as le droit de venir directement, pour te servir de ce que tu veux. On est d'accord ? C'est le Shtar Adrachta. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici, Rabat ? Rabat, il dit à partir de quand ? À partir de quand on a le droit de s'en servir ? Dès qu'on a reçu ce fameux Shtar Adrachta. C'est-à-dire que dès que tu as reçu ce contrat, 90 jours sont passés, et que la personne ne t'a pas remboursé, tu as le droit de saisir ce que tu veux, et tu as le droit de t'en servir sur place. Ah, peut-être après il va récupérer de l'argent et il va venir te récupérer. Bon, dans ce cas-là, s'il vient récupérer, il récupère. Mais tant qu'il m'a pas récupéré, j'ai le droit de profiter de l'usufruit. T'es d'accord ?
Oui, l'hôtel des ventes n'a rien à voir, l'hôtel des ventes c'est un intermédiaire.
Oui. L'hôtel des ventes c'est pas la même chose.
Ouais.
Intéressant parce que dans la Torah on passe pas par ce système d'hôtel des ventes. Dans la Torah, à la limite, le Beit Din envoyait un huissier, mais c'est toi-même qui venais te servir chez moi.
C'est dans ce cas-là, si jamais t'as pas 50 000, ça t'a rien qui correspond en valeur,
ouais.
Que le gars il peut tomber esclave.
Dans oui.
Ce cas-là.
Mm-hmm. Non. C'est pour un vol, ça.
Ah, c'est que pour un vol?
Ouais.
Alors, là, concrètement, je te dois 50
000. Dans la Torah, le concept de faillite n'existe pas. n'existe pas un concept, j'ai fait faillite. Il n'y a pas un concept de société, ça n'existe pas ce concept.
Non mais j'ai rien.
C'est ce que je te dis, alors, tu dois toujours. Tu le dois, bah tu vas rembourser.
Mais comment? Tu peux pas me saisir. Ton contrat, le star,
Bon.
Tu peux pas le
bah,
faire.
Tu as pas de quoi, t'as pas de quoi, bah, tu vas rembourser après. Tu vas rembourser quand tu auras. Dans un cas extrême, le petit peut décider de te faire des travaux forcés, c'est-à-dire de te forcer à travailler pour lui. Il peut le faire, mais pas esclave.
Ah, esclave, c'est uniquement dans le cas de...
Esclave, c'est uniquement le cas d'un voleur.
Est-ce
parce que c'est quelqu'un qui a volé, c'est-à-dire que dès le début, l'action était mauvaise. Alors que là, toi, t'as emprunté de l'argent, tu pensais que ça allait bien se passer, maintenant, t'as raté ton affaire, qu'est-ce que je dis?
Vol dans quel sens? Vol d'un objet ou vol d'esclavage?
Non, vol, vol. J'ai volé.
Ah, pas dans le cas des 10 commandements.
Non, non, non. J'ai volé. Donc on a dit le droit de s'en servir
à
sur
partir du
place.
moment des,
Dès l'instant où il en a, il aura se servir. D'accord?
Voilà.
Abaya Amar, Abaya a dit, Edav Bachatumam Zakinlo. Il dit non. Lui, il dit qu'avant même que ce contrat est arrivé dans sa main. Parce que ce qui se passait, c'est comme ça. C'est que, au bout de 90 jours, lorsque je n'ai pas réussi à te rembourser Yaakov, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, moi, je vais aller voir, je vais venir chez toi, avec un huissier, je vais décider, je vais dire, voilà, je pense que je vais me servir de ça. Ensuite, on va présenter l'affaire au Bézi, on va dire, voilà le shtar adrachta, voilà le contrat qui me permet de prendre, et voilà ce que j'ai envie de me servir. D'accord? Je prends ça. Et après, la transaction doit être validée par le Beddin. Abaye est parti plus loin que ça. Abaye a dit, avant même que la transaction ait été validée par le Beddin, le fait que sur ce contrat de Adrarta, il y avait des témoins qui ont signé il y a déjà 90 jours, le fait qu'il y ait déjà des témoins qui ont signé il y a 90 jours, avec la force de ces témoins, je peux déjà m'en servir tout de suite dès que l'objet arrive dans ma main, avant même que l'affaire de la transaction soit validée par le Beddin. Ça, c'est Abaye. Rava Amar, donc on a eu Rava, Abaye et Rava. Rava a dit, mais Chishlimu yeme achasta. À partir de l'instant dans lequel sont finis les Yeme Achasta. Alors c'est quoi les Yeme Achasta? C'est un autre cas. Yeme Achasta, c'est dans le cas dans lequel toi, Yaakov, tu dis, moi je ne suis pas intéressé de récupérer un objet. Moi j'ai donné 50 000, je veux 50 000. Donc là, dans ce cas-là, on va devoir passer par le Beddin. C'est le Beddin qui va venir se servir chez moi. Et donc là, c'est le cas de l'hôtel des ventes.
Il va saisir.
C'est le Beddin qui va saisir et c'est lui qui va vendre. Alors comment ça se passait? Le Beddin proclamait dans toute la ville, il disait tel et tel et tel objet est à vendre. D'accord? Celui qui veut l'acheter, il peut l'acheter jusqu'à telle date. Telle date, il y aura une vente. Donc c'est le cas de l'hôtel de vente. Je crois que c'est publié
Ouais.
Hein, c'est publié, c'est ça?
Normalement, oui.
C'est publié. C'est la même chose. Ouais. Yemeh Achasta. Dans la Gemara, ça s'appelle Yemeh Achasta. C'est-à-dire les jours dans lesquels on proclame. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici, Rava? Rava, il lui dit non. Il dit, il faut attendre le temps que ça aurait pris si ça avait été vendu par le Beit Din. Donc normalement, c'est 30 jours. C'est-à-dire qu'il faut rajouter 90 plus 30. 90, 90 jours, plus le temps que tu viennes chez moi, ou que le Beit Din vienne chez moi pour voir ce qu'il y a. Le temps que ça aurait pris pour que le Beddin vienne chez moi, plus encore 30 jours, le temps que ça aurait pris pour proclamer, d'accord? Ça veut dire environ, ça fait, il faut compter environ 90 plus 30, on va rajouter encore 3-4 jours, ça fait combien?
120.
Ça fait 120, ça fait combien de mois?
4 mois.
4 mois. Donc on attend 4 mois. 4 mois après que le Beddin a décidé que tu n'as pas de quoi rembourser, donc on va devoir se servir. 4 mois. Tant que ces 4 mois ne sont pas passés, tu n'as pas le droit de servir de l'objet. Donc on a eu 4 avis, 3 avis ici. Rabba, Rava, Abaye. Rabba a dit, dès que le contrat arrive dans mes mains et que je récupère l'objet, je peux tout de suite m'en servir. Abaye est parti plus loin que ça, il a dit non, même si le contrat n'a pas encore été validé par le Beit Din, je peux tout de suite m'en servir avec la force des témoins qu'il y a sur ce contrat. Donc on est tout de suite, ça veut dire 90 jours plus une seconde, ça y est, je peux prendre l'objet et m'en servir tout de suite.
C'est
d'accord
pas de...
J'envoie mes hommes dans ton terrain, je te mets dehors et je prends ton terrain.
Oui.
Et même si la transaction n'a pas été validée, je pars de la base que puisque j'ai les témoins qui sont dessus, je peux me servir.
Mais tu peux servir n'importe comment.
Oui, bah, il faut ça être validé. On peut toujours revenir rétroactivement. Et on a l'avis de Rava qui a dit non. Lui, il pousse beaucoup plus loin. Lui, il dit qu'il faut attendre environ 4 mois comme ce qu'on a pu expliquer. D'accord? Ça, c'est les 4 cas que la Gemara a expliqué à propos de la reprise d'une saisie. Dans quel cas on peut reprendre une saisie, dans quel cas on ne peut pas reprendre une saisie. Voilà, ça reste ici.